tous et bienvenue pour cette...
Attends, je te dis.
Oui.
Ah non, ça va, j'ai peur. Non, j'ai cru qu'il y avait Romain Grosjean, mais non, c'est bon. Excuse-moi, je te dis, c'est juste pas... Voilà. J'ai eu peur.
Ça n'arrive pas à chaque fois. Arrêtez de dire ça, ça n'arrive pas à chaque fois.
Non, mais j'ai vu une ombre, je me suis dit, c'est le début de l'émission, peut-être que, mais non. Donc vas-y, reprends, excuse-moi, je suis désolé.
Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, où nous allons revenir sur le Grand Prix, je dis bien sur tout le Grand Prix, pas seulement sur le premier virage du Grand Prix de Belgique qui avait lieu à Spa-Francorchamps. Pour nous accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino, mais vous l'avez déjà entendu, il est là, ça va Dino?
Oui, ça va.
Et Dino, comme d'habitude, qui est donc notre
sales.
Guest?
C'est Elder, quoi, voilà. Bonsoir Elder.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Bonsoir Dino, bonsoir Shinji.
Elder qui se prépare depuis à peu près 9 ans
oui.
Pour ce SAV.
Ouais, hein. C'est un long entraînement physique, mais ça va bien se passer.
Voilà. N'aie pas peur, ça ne fait pas mal.
En tout cas, pas au début.
C'est comme les impôts, il n'y a que le premier tiers.
Alors messieurs, comme d'habitude, je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'avez-vous pensé de tout le Grand Prix? Je dis bien tout, je précise cette semaine, parce que c'est important.
Il était pas dégueu.
Il s'est passé des choses.
Voilà.
Il était mouvementé, mais plein de plaisir.
Mais il y a eu je crois que sur Twitter, j'ai mis que ça allait être un Grand Prix qui allait sans doute rester dans la légende, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu tous les ingrédients. Il y a à la fois de la polémique en dehors de la piste, mais aussi sur la piste. Il y a des dépassements, il y a des pénalités, il y a tout quoi. Voilà, il y a un pilote
qui
domine,
mais
en même temps, voilà.
Ouais, c'est...
Voilà. Ouais, on a même vu des Marussia, quoi. Enfin, à un moment
oui.
donné, c'est un Grand Prix où tu vois deux Marussia se battre, tu te dis, c'est pas possible. Ah non, un Grand Prix où tu vois deux Marussia se battre, c'est normal, c'est logique. Mais un Grand Prix où tu les vois vraiment,
tu les vois vraiment
à la télé, oui. Là, il y a un truc qui cloche, quoi.
Et un Grand Prix polémique avant, pendant et après le Grand Prix.
Oui. Ah oui, bah il y a eu la totale cette semaine.
Ah ben, merci Lewis.
Et dire que Elder, il avait peur au début, il dit, oh, on va se faire chier. Généralement, sur les circuits comme ça, on se fait chier.
Non, c'était pas ça, ma phrase. C'est, cette année, je trouvais que sur ce qui d'habitude est un bon circuit, les courses sont pas terribles, et là, Spa m'a fait mentir, ça m'a fait super plaisir.
Spa, tu as la preuve que Spa est un circuit de merde.
Je n'oserais pas dire qu'il est mieux que le dernier sur lequel on a vu des Formule 1 tourner, mais bon.
Attends, alors c'était des GP2, Hungaroring. Ah, c'est vrai que l'Allemagne est tout pourri.
Ah. Donc ouais, un bon Grand Prix.
Alors messieurs, vous savez comme d'habitude par quoi on commence. Et vous le savez, ce dimanche nous étions le 2 septembre. Mais qu'est-ce qui a bien pu donc se passer un 2 septembre? À chaque fois j'essaie de la faire et à chaque fois je la rate cette phrase, c'est dingue.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc je vous rappelle le concept de l'éphéméride inutile, un chiffre qui a un lien avec un événement qui s'est passé le même jour que le Grand Prix. Et cette semaine, messieurs, gros Grand Prix égale gros chiffre.
Égale au gros gens aussi, mais bon.
Égale aussi gros gens cette semaine. Cette semaine, messieurs, le chiffre est 150 millions.
Allez, je te laisse l'honneur, Elder. Je serai seigneur.
Est-ce que ce serait le nombre de morceaux de carbone laissés sur la piste après le passage de Grosjean?
Alors,
plus ou moins à peu près.
Il y en a eu un peu plus lors du Grand Prix, donc ça n'est pas ce chiffre.
C'est un gros chiffre. Est-ce que c'est une somme d'argent?
Non.
C'est un nombre de vues sur Internet?
Non.
Ça fait beaucoup.
C'est un nombre de followers?
Non.
Il faut dire qu'en Formule 1 ce week-end, followers, Twitter et Instagram ont eu beaucoup
de
succès.
Ouais, les actions ont dû monter en bourse. 150 millions.
Ce sont des kilomètres carrés.
Non.
Est-ce que c'est une mesure de surface?
Ce n'est pas une mesure.
C'est pas une mesure de distance obligatoirement.
Non plus. Voilà.
Ce sont des objets.
Oui, ce sont des objets.
150 millions d'objets.
Le nombre de pins, rendez-nous. Non, il va falloir que je trouve autre chose. Non, non.
Ou alors que t'ailles au bout.
Oui.
Si jamais à un moment donné tu vois le bout, tu nous le dis.
Je me suis rendu compte que c'était tellement mauvais, j'ai fait non, allez, on s'arrête tout de suite.
Quand c'est mauvais, faut pas hésiter ici. Plus c'est mauvais, mieux c'est.
150 millions d'objets. Ce sont des objets qu'on peut avoir au quotidien, Shinji.
Oui.
C'est un objet qui est produit à 150 millions d'exemplaires.
Qui a été, oui, on peut dire produit et vendu à 150 millions d'exemplaires.
Et qui n'est plus vendu aujourd'hui.
Si.
C'est une chanson?
Non.
Un livre?
C'est un livre.
Oh. La Bible.
Ah non, la Bible, c'est plus encore que 150 millions.
Un livre Guinness, français? Un Guinness des records?
Non et non.
Le Seigneur des Anneaux.
Oh putain.
Non, c'est ça.
Oui, c'est ça. Un coup de vol. Avouez que c'est un coup de vol.
Je vais essayer soit Harry Potter, soit le Seigneur des Anneaux. Je me suis dit Harry Potter, non, c'était trop proche. Je suis désolé, Elder. Là, ça.
Ah là, non, c'est... là, c'est.
Et alors, pourquoi? Pourquoi les 150? Donc, en effet, ça a été vendu à 150 millions d'exemplaires. Pourquoi?
Bah, c'est la sortie du premier livre.
Non.
La naissance de J.K.R.R.
Presque.
La mort.
C'est la mort, en effet. Bah, forcément, si tu trouves.
Je comprendrais que pour chez Gilles, presque la naissance, c'est la mort.
C'est-à-dire que c'est soit la date de naissance, soit la date de décès, tu comprends? C'est pour ça. Et donc, en effet, John Ronald Reuel Tolkien, hein, c'est ça, les J.R.R., il était né le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud et il est décédé le 2 septembre 1973 en Angleterre. C'est l'auteur, en effet, du Seigneur des Anneaux. Donc, 150 millions d'exemplaires dans le monde et encore, c'est peut-être même encore plus aujourd'hui parce que c'était il y a quelques années encore. Avec donc, on connaît bien évidemment le Seigneur des Anneaux, mais il y a aussi...
Bilbo le
Hobbit. Ah oui, Bilbo le Hobbit, puisque va y avoir les films, puisqu'on a appris qu'il y aurait 3 films, hein. Et pourtant, Bilbo le Hobbit, c'est pas aussi épais que le Seigneur des Anneaux.
Non.
C'est aussi, si vous voulez, parce que il a écrit.
Le Silmarillion, non?
Le Silmarillion, voilà, même si c'est sorti après sa mort, mais voilà, il a écrit une bonne partie de son vivant. Alors ce qui est étonnant, c'est que Tolkien, c'est pas du tout le profil, on dirait aujourd'hui du geek. Hein, c'est quelqu'un qui fait des études à Birmingham et à Oxford. Il devient professeur assistant de langue anglaise à l'université de Leeds, puis professeur de vieil anglais à Oxford et professeur de langue et littérature anglaise en 1945. Donc c'était une tête, hein, voilà, c'était vraiment. Et il avait en effet ce goût pour les langues. Hein.
Bah il y a des geeks qui sont des têtes. Hein.
Oui.
Bon il y a des cons, mais c'est des mecs intelligents.
Et sûr, il a pas le profil habituel. Même là, en plus, c'est un pur littéraire, Tolkien.
Ouais. Mmh.
Un goût tel des langues que il conçoit des langues. Hein. Les fameuses langues naines, les langues elfiques sont des vraies langues qu'il a créées avec une grammaire, une orthographe. C'est pas simplement des caractères anodins mis l'un à côté des autres. Et à noter qu'il faisait partie d'un cercle littéraire. Et il connaissait notamment C.S. Lewis, qui est lui l'auteur des Mondes de Narnia. C'était des proches amis. Donc le Seigneur des Anneaux, bien évidemment, une œuvre majeure dans la fantasy. Il y avait déjà des œuvres de fantasy avant Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment ce livre-là qui a imposé les codes actuels, hein, on pourrait dire, de la fantasy, donc qui a une influence sur la littérature, le cinéma, le jeu de rôle, les jeux vidéo. Donc voilà, c'était
une pierre fondatrice, ouais.
Ah oui, c'est une pierre fondamentale de la fantasy, on pourrait dire, actuelle. Je dirais pas moderne, parce qu'avec fantasy, c'est pas vraiment le terme approprié. Donc,
c'est, pas lui, c'est pas lui, puisque tu m'as l'air très calé ce soir. Hein. C'est pas lui aussi qui a fait... ah non, je confonds. L'univers de Cthulhu.
Non, alors Cthulhu, c'est H.P. Lovecraft.
Ouais, voilà, c'est autant pour moi.
C'est un peu, c'est aussi première partie du XXe siècle. Mm. Mais c'est aussi une pierre majeure dans un autre style.
Oui.
Mais, c'est aussi une pierre majeure de la littérature fantastique.
Eh bien. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on aimerait bien que Romain Grosjean arrive. Pour relancer le débat.
Après ce débat, monsieur Pivot, vous pouvez sortir de son corps.
Et donc sinon, en F1, ce 2 septembre, alors c'est déjà un anniversaire qui a été évoqué.
Olivier Panisse, non?
Eh oui, 46 ans, 158 Grands Prix, une victoire, hein, la fameuse victoire au Grand Prix de Monaco, donc qui est passée par Ligier, par Barr, par Toyota et même par McLaren, même si c'était en tant que pilote essayeur.
C'était un accident.
Ah mais même si bon il avait choisi d'être pilote essayeur, il a fait une remarquable année pour McLaren. Hein, et je vous rappelle que les dirigeants et les pilotes de McLaren avaient souligné son travail en tant que pilote essayeur, notamment dans la mise au point. Et au niveau des grands prix, alors c'est à ce moment-là de l'année, c'est souvent des grands prix de Belgique. Hein, donc on peut noter le Grand Prix de Belgique 2001, qui victoire de Schumacher. Et pas anodine, puisque c'était sa 52e victoire, ce qui était donc le nouveau record pour le nombre de victoires qu'il a largement explosé après.
Oui, il y en a eu quelques-unes après.
T'as vu l'aileron avant qu'ils ont fait pour le truc très pratique à mettre dans un salon.
Et surtout, c'est très rigolo, c'est de mettre le numéro, tu vois, ils ont bien mis en évidence les victoires. Et là, il va pouvoir regarder le compte, tu vois, et dire « Ah, c'est bizarre, là, sur le flap avant-gauche, là, il y a pas de chiffre en gras. » C'est dommage. Hein. Ah oui, il y a 3 saisons chez Mercedes. Hein. Qu'est-ce que tu veux, Mickaël? À un moment donné, il faut...
Un Grand Prix qui avait été assez terrible pour l'équipe Prost, puisque déjà, dès le départ, Frenzen...
Qui était quatrième.
Il avait calé sur la ligne, donc il s'était retrouvé en fond de grille.
Oh, c'est ballot.
Et l'autre pilote, qui était Luciano Burti, au cinquième tour, il s'est pris un mur de pneus à plus de 300, hein, typique de Spa.
À Blanchimont d'ailleurs, non?
Moi, je vois dans Blanchimont, Burti tente de dépasser Irvine par l'intérieur. Donc c'est soit dans Blanchimont ou juste après. Mais après, il s'est encastré, ce qui fait qu'il y a eu un drapeau rouge.
Qui a été très long d'ailleurs.
Est-ce qu'au final, la course n'a duré que 36 tours sur 44, ça fait par rapport à la longueur à Spa, c'est assez conséquent. Donc voilà, c'était tout pour l'éphémère, qui est finalement très rapide. T'as eu un cul monstre quand même ce soir.
Mais non, moi je te connais, Shinji, j'ai bien deviné, voilà, c'est tout.
Je savais que j'aurais dû mettre la Batam d'Axiom. Oui. J'aurais aussi pu vous faire le grand incendie de Londres. Ça aurait pu être sympa aussi, mais...
Ouais. On est dans la destruction dans cette émission.
Oui, je vois ça.
C'est vrai, ça aurait été dans...
Les batailles, Grosjean, la famille de Londres.
Alors Dino, puisque l'éphéméride est finie, c'est l'heure de gloire de l'invité maintenant.
Mon Dieu.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Et oui, Elder, c'est l'heure de gloire de l'invité. Tu sais, c'est cette partie de l'émission où Shinji ferme enfin sa gueule.
Ah, ça va pas faire de mal. Hein.
Ouais, on est pas là. Tu vois, c'est quand, tu me crois pas, Shinji, quand je te le dis. Tu es trop bavard. Tu parles trop. Tu lasses les gens.
C'est parce qu'en fait, il va jamais sur Twitter. Et donc, il se défoule sur le SAV, en fait.
Carrément.
Oui, voilà, c'est ça. C'est lié.
Il se réserve.
Donc Elder, c'est ton moment, hein. C'est nous allons te poser des questions sur l'actu pour avoir un petit peu ta vision du monde, savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la F1 et compagnie. Et tu le sais, ça commence par le
pour pas pour. Hein.
Alors le pour pas pour, je rappelle, ce sont 10 propositions qui commencent par pour pas pour. Tu nous diras à chaque fois si tu es pour ou si tu es pas pour. Voilà. Et à la fin, tu pourras revenir sur 3 sujets. Et promis, il ne sera plus question du Hungaroring.
Et t'as dit, je me rappelle.
J'ai du mal à y croire. Hein.
Il a dit, je vais trouver un autre circuit de merde. Je m'en rappelle encore. C'est lui qui
l'a
dit.
Il va parler de Abu Dhabi alors.
C'est rigolo parce que il y a un circuit de merde dans la liste.
Ah.
Alors Elder, la question de d'habitude, très formelle, très simple, c'est toi qui donne le départ, es-tu prêt?
Je suis prêt Jean-Pierre.
Alors, pour ou pas pour, un V6 Turbo Cosworth en 2014?
Pour.
Pour ou pas pour, le 300e Grand Prix de Michael Schumacher?
Eh bien, puisque je ne peux pas couper la pomme en deux, ça sera pas pour.
Ouais.
Et je suis un fan.
Moi aussi. Pour ou pas pour que Charles Pic s'engage avec Sauber en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour que Pirelli reste au-delà de 2013 en tant que manufacturier de la Formule 1?
Pour.
Pour ou pas pour Nelson Piquet Jr. J'ai cherché plusieurs formules, je me suis dit à un moment donné, voilà, arrête-toi, c'est simple quand même, Nelson Piquet Jr.
Eh bien écoute, je vais sûrement vous choquer, mais pas pour.
Ah mon dieu!
Oui, je le savais.
Pour ou pas pour le Grand Prix de Grèce?
Pas pour.
Pour ou pas pour, et c'est là qu'on parle du circuit de merde, Manicourt pour accueillir le Grand Prix de France.
Well, je vais mettre tous les fans français sur le dos, hein. Pas pour. Hein.
Non, mais je pense que tous les fans français sont d'accord avec ça. Alors, question existentielle. Pour ou pas pour, en cette période de rentrée, les cartables Spider-Man et Hello Kitty?
Ah, je suis pour.
Ah, pourtant ça tue des enfants. Surtout le Hello Kitty. Le Spider-Man, ça va, mais le Hello Kitty.
Ouais, mais
pour
c'est,
ou pas pour.
C'est...
Le retour de Rubens Barrichello. C'est un spécial vieux.
Pas pour. Je reviendrai sur celle-là.
Et enfin, pour ou pas pour que l'on déménage tous, à condition bien sûr que les apparts ne soient pas trop chers, dans un univers parallèle afin que l'on puisse enfin voir Jenson Button faire équipe avec Fernando Alonso chez Ferrari.
Ah, écoute, pour, je dirais.
Et ben voilà, ça nous fait... c'est la parfaite équité, hein. Il y a 5 pas pour et 5 pour. Tu es donc pour le V6 Cosworth, pour Charles Pic chez Sauber, pour Pirelli au-delà de 2013, pour les cartables Spider-Man et Hello Kitty, espèce de tueur d'enfants, là. Et enfin, pour que l'on puisse déménager dans un univers parallèle afin de voir Jenson Button et Fernando Alonso...
faire équipe chez Ferrari.
Collaborer chez Ferrari, voilà. C'est... Là, vraiment, la fin du monde est en 2012, hein, dans cet univers, c'est faut dire.
C'est, ouais, là, c'est le bordel, hein.
Et donc, tu voulais revenir sur Rubens Barrichello?
Oui, donc là, nous sommes lundi soir, et en fin d'après-midi ou début de soirée, il a eu un magnifique tweet auquel je voudrais rendre hommage, où il dit « Si Lotus m'appelle, oui, je reviendrai. » Et j'ai pu dire que si. Lotus s'en fout, quoi.
J'avais pas vu.
Tu l'avais même pas vu, je pense.
Ah non, moi j'ai pas vu, moi.
Ah, il est collector, celui-là, hein. Franchement.
Ah ouais, oui.
Je suis plus, moi, Ruben.
Quel loser, voilà.
Ah, il perd pas le nord, c'est là.
Ah non. Il nous a fait une piquée junior, quoi. Il a profité comme ça, entre deux averses, tac, il a dit un truc.
Donc sinon, sur Barrichello, sur son retour, sur ses déclarations, notamment, récentes.
Moi je trouve que plus ça va, plus il ferait bien de faire le deuil, quoi. Je comprends sa passion, hein. On a Schumacher qui a fêté son 300e. Mais voilà, c'est il a fait son temps, il a eu ses moments de gloire. Next.
D'ailleurs Shinji, je dois dire que malheureusement nous avons gagné.
Ah. Nous avons gagné.
Enfin, on a gagné, bah on avait raison, quoi. Jean-Louis Moncey n'a pas tenu, mais il a même pas tenu 2 jours. Les premiers essais libres,
ah oui,
clac,
oui.
Il en parle.
Ah là. J'ai pensé en plus. Ouais.
Bon, ça tombe bien, c'est le moment où je me suis endormi.
Bon, vendredi.
Oui, parce que des essais libres sous la pluie, à un moment donné, quand tu te réveilles à 10h et tu vois il pleut, tu dis bon, oui. Ça va pas rouler.
D'ailleurs,
à un moment donné...
je trouve franchement que sur les bilans de vendredi, quand même, vous écrivez beaucoup pour ne rien dire. Alors que vous auriez mis un article en mettant résumé de la journée, il pleut. C'était bon, quoi, j'ai envie de dire.
J'ai pas vu les essais libres 2, mais il s'est rien passé, en fait, pendant les EL2.
Bah, eh bien, non. Absolument.
Ils sont
rien.
Juste sortis à la fin, quoi.
Oui, voilà.
Et j'ai pas lu le résumé. Enfin, pour que je lise le résumé, ça se trouve là. Parce qu'encore, les essais libres 1, il y a eu quelques petits trucs. Voilà. Il y a eu une pause de 30 minutes où il s'est rien passé. Mais quand même, il y a eu quelques petits trucs. Alors que c'est les essais libres 2, apparemment, ils
étaient... Le fait que Charles Pic fasse le meilleur temps des essais libres 2, ça t'a même pas mis la puce à l'oreille.
Ah oui, ça, quand j'ai vu Charles Pic meilleur temps, je me suis dit, bon, ça y est. Ne lis pas ce résumé, ça va te faire mal.
T'es dans un univers parallèle, t'es dedans. Quoi.
Donc, ensuite, est-ce que tu as un deuxième sujet que tu voudrais, sur lequel tu voudrais revenir?
Il y en avait une sur le 300e de Schumacher.
Ouais.
Ouais. Et j'ai dit que j'étais pas pour, hein.
Ouais.
Eh bien, en fait, ouais, c'est tout un paradoxe. Donc le garçon, je l'ai découvert comme tout le monde, enfin comme moi en tout cas, je l'ai découvert en 94, hein, vu que mon premier Grand Prix c'était cette année-là. Et en fait, de 2001 à 2006-7, j'ai arrêté de regarder la F1. Et là, j'étais content de le retrouver, papy. Mais c'est affectif quand je dis papy, qu'il n'y ait pas des pavés lancés sur ma fenêtre.
Tu veux mourir, toi.
Ouais, non, mais c'est super affectif parce que en fait, j'en viens à le préférer plus dans sa deuxième carrière. Pas parce qu'il gagne, ça c'est sûr, mais parce que je le trouve plus humain.
Bah c'est sa grande réussite, je trouve, dans sa deuxième carrière. C'est voilà, c'est qu'il a réussi à refaire ressortir un peu l'homme derrière l'espèce de machine de robot.
C'était un sniper, quoi. C'est même quand il avait une bouse, c'est.
Il a eu des bouses, Schumacher.
Je pense que les premières Ferrari qu'il a eu, la première, il me semble, même si.
Non, c'est pas des bouses. Non, c'est pas des bouses. Ce sont des Ferrari. Bon, si on gratte un peu la peinture, peut-être. Mais ce sont des Ferrari, messieurs. Alors, un peu de respect.
Ouais. D'ailleurs.
Attention, j'en vois Grosjean.
En plus, il a de la disponibilité en ce moment.
Hein. Ouais, là, voilà, il a du temps à tuer.
C'est ça. Donc voilà, c'est je suis pas pour parce que effectivement je vois pas un peu ce qu'il vient foutre en F1 en fait finalement à part faire de la figuration hélas et donc voilà, c'est un pas pour mais mitigé parce que je suis bien content de le retrouver et de le retrouver différent mais Michael, si tu nous écoutes s'il te plaît, laisse ton baquet l'année prochaine.
Ouais, casse-toi, dégage.
C'est Bernie qui a dit quand ils ont coupé le gâteau là, qui a dit ah c'est dommage, il va nous quitter, il en aura pas gagné une seule. Alors, merci.
Et sinon un troisième thème que tu aurais voulu revoir, je te les rappelle, le V6 Cosworth 2014, de Charles Pic chez Sauber en 2013, Pirelli au-delà de 2013 toujours manufacturier, Nelson Piquet Junior, le Grand Prix de Grèce, Manicou pour accueillir le Grand Prix de France, le cartable de Spider-Man et Hello Kitty. Et la collaboration Johnson Button Fernando Alonso chez Ferrari dans un univers parallèle.
Écoute, j'hésite entre deux.
Tu sais quoi, comme j'étais rapide, je te donne les deux.
Ah, c'est formidable. Écoute, on va commencer par les cartables Hello Kitty alors.
Ah. Oui, alors pourquoi ils tueraient les gens? Ça, j'ai pas.
C'est fabriqué.
C'est Hello Kitty, j'ai dit.
Ah oui, c'est gagné, c'est gagné.
Voilà, c'est.
Ah, ah, attention.
Ah non, oui, non, oui. Non. Ah,
oh, oh, oh. On ne confond pas Hello Kitty et Dora l'exploratrice.
Oh merde!
Il faut savoir. Moi, je dis, il y a Tolkien et Hello Kitty. Ah. Mais non, mais t'as jamais eu envie de massacrer un gosse, toi, qui avait le cartable Hello Kitty, la tronche Hello Kitty. Ouais. Enfin, moi, j'ai travaillé dans une école quand t'as la morpionne qui est là, qui pose son cartable Hello Kitty sur le bureau. Tu dis, bon, bah, alors là, elle va ouvrir le cartable, elle va sortir la trousse Hello Kitty. Elle ouvre son cartable et effectivement, elle sort une trousse Hello Kitty. Puis après, tu dis, bon, bah, alors là, son cahier de brouillon, ça va être effectivement un cahier Hello Kitty. Et là, elle sort son truc, c'est effectivement un cahier Hello Kitty. Puis après, tu te dis, bon, bah, là, dans sa trousse, ça va prendre un stylo, ça va être un stylo Hello Kitty, et effectivement, c'est un stylo Hello Kitty, puis après, elle va prendre un classeur, c'est le classeur Hello Kitty.
Alors,
après...
moi, je me permettrais de te couper dans ton fantasme, en te demandant, mais c'est pas plutôt les parents qu'il faudrait tuer, finalement?
Ah.
Ouais, mais d'abord, faut les faire souffrir.
Ok, tu marques un point.
Non, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est que, plus sérieusement, c'est les parents, c'est-à-dire que,
ah, oui.
Voilà, on enferme les gamins dans Kitty et Spider-Man. Pour ça, j'ai dit, j'en ai marre, les cartables. Mais le pire, c'est que ça dure, quoi. J'en ai encore vu des gamins.
Mais des Spider-Man,
dans des magasins.
On a l'impression que c'est.
Spider-Man et Hello Kitty,
c'est
quoi,
le
merde.
Super-héros au monde. Alors que tu vois, des cartables Cthulhu, ça serait vachement sympa.
Écoute, moi, ça m'étonnerait pas qu'un jour ils le fassent. S'ils en font un jeu vidéo, ils seront bien capables de nous sortir le cartable, l'appel de Cthulhu, le jeu vidéo, hein. Et donc nous aurions nos magnifiques têtes blondes avec des couteaux, des haches de boucher, aller en cours, formidable.
Ça serait pas mieux, hein?
Ah, un monde idéal.
Ah ouais, un monde rempli de paix.
Sinon, t'avais une dernière actu?
Ouais, Pic chez Sauber.
C'est vrai, on en parle. Hein.
Ouais.
Parce que pour reprendre la vanne de Fab, à mettre du Sauber dans les épinards. Désolé, Fab. Désolé. Mais c'est sincèrement, c'est la vanne de Fab que voilà, qui est la meilleure au monde.
C'est aussi un peu la vanne de Sauber. Je veux dire.
Oui, mais.
Tu peux difficilement faire d'autres blagues avec Sauber.
Oui, c'est sûr, tu peux pas dire ça met du Force India dans les épinards. Non. Là, t'as un peu con.
Moi, peut-être qu'il y a des vannes encore plus drôles, mais dans d'autres langues, hein, en fait.
Ça se trouve, Sauber dans les épinards, dans d'autres langues, c'est c'est con. Elle est pourrie ta vanne, en fait, Fab, parce qu'elle est seulement française. Donc c'est la meilleure vanne de France, je corrige.
Soyons modestes.
Donc Sauber est épique.
Vu le traitement traditionnel du deuxième pilote chez Marussia, déjà qu'il se barre de chez Marussia pour aller ailleurs, déjà ce serait un pas en avant pour lui. Sauber, ce serait pratiquement le Saint Graal quelque part si la voiture est aussi performante l'année prochaine. Il y a peut-être Caterham à la suite, on va peut-être pas aller aussi vite pour lui. Il fait peut-être du bon boulot, mais voilà, il engraine l'expérience. Et il semble apprendre, le garçon. Ils en parlent pas beaucoup sur notre chaîne française préférée, je trouve. Sauf quand le réalisateur d'un Grand Prix décide de passer 5 minutes sur les deux Marussiens. Mais voilà, il se débrouille franchement pas trop mal. Il est très discret. Il est presque transparent d'ailleurs. Quand tu le vois en interview, tu existe, garçon.
Non mais c'est vrai que
il pourrait avoir de l'avenir, quoi.
Il a un besoin quand même de s'affirmer, ça c'est vrai. Quand tu vois en interview et tout ça, on sent entre guillemets, il fait encore un peu gamin.
Ouais, c'est ça. On dirait moi je suis sûr dans le coffre de sa voiture, il a un sac Spider-Man.
Alors, on va demander, je sais plus, c'est Clément qui va à Monza ce week-end. Clément, à Monza ce week-end, ta mission est de vérifier si Charles Pic arrive dans le paddock avec un sac à dos Spider-Man.
Charles, si tu nous écoutes, j'espère que tu as beaucoup d'humour.
Et Fernando, si tu nous écoutes, Felipe is faster than you. Can you confirm that you understand that?
Pourquoi?
Roberto Jean is faster than you.
Faut en profiter, c'est historique, j'ai dit. C'est la première fois qu'en course, Felipe est plus rapide que Alonso depuis l'Allemagne 2010.
Oui, c'est vrai que ça faisait un bon paquet de Grand Prix qui terminait pas devant Alonso quand même, hein. Mais je l'aime bien, Massa, en fait, hein. Mais bon.
Mais tout le monde l'aime.
Ouais, mais on aimerait bien le voir ailleurs, surtout.
Alors, ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Écoute, j'oserais te dire que le V6 Cosworth, j'en ai un peu absolument rien à foutre, quoi.
Ça fait pas envie, hein, V6 Cosworth.
Écoute, ils ont peut-être fait des trucs bien il y a longtemps, dans le passé. À l'époque, il y avait encore des animaux très 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 grands sur Terre. Mais là, c'est franchement pas ce qui se fait de mieux. Mais ça permet à des petites écuries, je vais pas dire des chicanes mobiles, des petites écuries de subsister, quoi. Et ça c'est plutôt positif parce que ces écuries-là, pour survivre, elles embauchent que des pilotes qui ramènent du pognon. Donc c'est absolument inintéressant.
Non, puis c'est vrai que comme projet, ça a l'air vachement rassurant, quoi. Parce que dans leur message, c'est même pas « Oui, non, mais ça fait quelque temps déjà qu'on y travaille. » Non, c'est « Oui, on va commencer à y travailler. » Les gars, les autres, ils sont déjà sur les bancs, quoi.
Ils disent « On est capable de faire un moteur en 10 mois, il n'y a pas de problème. »
Ah, mais non, mais n'importe qui est capable de faire un moteur en 10 mois. Mais qui est capable de faire un bon moteur en 10 mois? Ça, c'est pas pareil.
La question, c'est plutôt qui va demander à Cosworth de faire des bons moteurs. C'est pas Sauber qui va aller les voir, je pense, tu vois. Sauber, ils vont attendre qu'un autre débarque sur le marché, quoi. Un vrai constructeur qu'on ne citera pas. Qui finira par venir, hein.
Alors maintenant, transplanons et allons vers le futur. Quelle serait l'actualité hors Grand Prix que tu aimerais lire dans les prochaines semaines? En dehors des résultats, genre, D'Ambrosio l'emporte à Monza.
Ça, c'est l'actu que j'aimerais lire.
Ça serait l'actu, quoi.
Ça, ce serait un truc, mais absolument fabuleux, quoi, parce que là, Bouillet, il va se gratter la tête, il va se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux pas le virer au prochain Grand Prix, mais il y a Grosjean qui doit revenir, comme, je peux pas virer Kimi, il est deuxième du championnat à ce moment-là, non, c'est...
Attends, je rappelle qu'à Terram, je crois qu'on peut s'arranger.
Mais, ouais, la vraie, moi, celle-là, elle me ferait vraiment plaisir de la lire. Et une autre qui me ferait plaisir à lire,
J'aimerais lire D'Ambrosio qui gagne.
Ah ouais, moi, mais je te jure que ça me ferait crier dans mon salon, ça. C'est, parce que je trouverais que c'est un paradoxe, mais tellement énorme, Lotus, qui depuis le début de la saison a une voiture de malade, qui marche super bien, et elle a, bon, Grosjean, on va pas parler de ses stats, mais, Kimi, qui fait un retour en F1 qui est fracassant. Il enchaîne les points, il enchaîne les podiums. Non, il se débrouille bien. Et que la première victoire revienne au troisième pilote, ce serait juste, tu vois, ce serait génial, quoi. Ah, moi, ça me ferait vraiment super plaisir que D'Ambrosio, je suis pas fan, hein, vraiment.
Ouais, sous cet angle-là, ça va.
Mais voilà, c'est, tu vois, ils ont tellement il leur manque un truc. Et déjà d'être sûr que ce soit D'Ambrosio qui la pilote la Lotus, hein, parce que Bouillet a dit que c'était pas lui qui déciderait au final, mais que ce serait le choix logique. Moi, ça me ferait super plaisir, en fait. Et l'autre, ouais, ça, je fantasme, hein, soyons réalistes aussi. Non, que Schumacher annonce sa retraite, qu'il parte la tête haute, il a fait une, je vais pas dire une bonne saison, ce serait quand même un peu trop fort, ça.
Bah, il fait une bonne saison.
Il sauve les meubles, voilà.
Mais c'est vrai qu'en termes de points et compagnie, et de palmarès, de résultats, c'est pas ça.
Tu vois, quand je lis Schumacher qui dit « je m'éclate comme un fou », ouais, super, ça nous fait super plaisir que tu t'amuses. Tu veux pas gagner un peu, s'il te plaît?
Grosjean aussi s'éclate comme un fou.
Donc voilà, j'aimerais, ça me ferait plaisir... qui s'arrête là. C'est où que j'ai entendu dire que Mercedes voulait raccrocher les gants, que Schumacher passait patron de l'écurie. Vous faites là des trucs encore plus dingues que moi, vous, les gars. Moi, je veux bien. Ça me ferait plaisir de voir Schumacher en patron d'équipe, mais j'ai un trop mauvais souvenir de en termes de lecture, puisque je l'ai pas vécu, enfin si, ouais, je l'ai vécu un peu, de la période de Prost GP. Hein.
Ouais.
Donc voilà, c'était un très grand pilote, et effectivement, il avait la rage, il doit toujours l'avoir, hein, vu qu'il est sur le trophée Andros, la rage de gagner, d'être le premier, d'être le machin, d'être le truc. Mais ouais, mais Coco, là, t'as une merde, hein, va falloir que tu vises peut-être un peu moins fort et que tu sauves les meubles surtout, quoi. Et bon, ça devait pas être facile pour un patron français en F1, financièrement. Mais voilà, oui, avec un appui de Mercedes, un Schumi Grand Prix, ce serait rigolo.
Mais à noter que c'est quand même déjà un truc, il y avait eu des rumeurs en 2006, il disait qu'il deviendrait patron de la Scuderia.
Ah, il était dans un rôle de consultant.
Oui,
ouais. Ouais, tout.
Mais déjà dès 2006, on disait il va devenir c'est le prochain, c'est ouais. Le successeur de Todd.
Bah oui.
Là, on va te dire c'est le successeur de Brown. Oui, bon, on verra. Apparemment, il a envie de faire de l'avion, donc.
Ouais, il cherche de l'adrénaline qu'il a plus.
Ouais.
C'est. Je pense qu'on devrait arriver, on devrait cotiser peut-être à un moment donné et lui offrir une seringue. S'il veut de l'adrénaline, ça doit pouvoir se trouver, hein.
Oui, ou on lui envoie Grosjean.
Écoute, il a expérimenté à Monaco.
Voilà, c'est vrai.
Là, à mon avis, il a qu'un rêve, Schumacher, c'est de pas croiser Romain Grosjean. Hein. Il se dit...
Déjà, à Spa, il est à l'abri. À Monza, il est à l'abri.
Oui. Ah, mais encore une fois, il reste Maldonado.
Oui, c'est vrai.
En plus, là, il nous a fait un Luke et Luke au départ, effectivement. Au début, sur les images de trois quarts, on a l'impression qu'il démarre au bon moment. Mais en fait, ouais, j'avais oublié que là où il est arrêté, il a un peu de place devant lui pour aller tout droit. Et en fait, quand les feux s'éteignent, c'est quand il déboîte. Hein. Et là, quand on voit sous un autre angle, ah ouais, mais il est carrément parti une demi-heure avant tout le monde.
Mais oui, mais lui-même le dit. Hein. Il le dit dans le bilan derrière. Il dit j'ai le doigt qui a lâché le voyage et je suis parti quoi. Donc à ce moment-là, je déboîte. Hein, voilà.
C'est ça. Ou alors tu fais gros gens quoi. Mais je voudrais vos avis là-dessus. Si Maldonado avait pas fait son départ canon au moment du départ, Grosjean aurait dû dévier à gauche ou à droite pour le dépasser, pour essayer de le dépasser en tout cas, et serait pas parti comme une fusée en ligne droite sans aucun obstacle pour se jeter avec amour et tendresse sur Lewis Hamilton, parce qu'il y aurait eu Maldonado entre eux. D'une certaine façon. Donc, est-ce que indirectement son faux départ n'a pas privilégié?
Maldonado était, ouais, il était juste devant Grosjean, en effet.
Tout à fait. Hein. Mm. Donc, quand les feux ils deviennent
en même temps, entre guillemets, Grosjean fait entre guillemets le même mouvement que Maldonado, c'est-à-dire qu'ils partent bon, pas au même moment, mais ils partent sur la droite.
Ah, il se jette à droite, littéralement, au bout de quelques centaines de mètres.
Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il se jette bien à droite, alors que devant lui, c'est la voiture de Pérez, je crois. Pérez qui, en fait, il fait la trajectoire inverse de Pérez. Lui, il va sur la droite et Pérez va sur la gauche. Donc, en fait, il y a un boulevard devant lui. Il, à un moment donné, il doit juste même arrêter d'aller à droite, quoi. Il continue un dixième de seconde de trop, sauf que c'est le dixième de seconde de trop qui fait qu'il va toucher la roue de Lewis Hamilton. Mais s'il s'arrête juste avant, il a un trou devant. Bon, faut qu'il freine un petit peu au forceps pour la source, mais il a vraiment quasiment un boulevard devant lui.
Après, le fait de voir Maldonado juste en face de lui partir, parce que on parle de choses qui se passent en dixième de seconde, je dirais pas, peut-être pas perturbé, mais ça a pu le troubler.
Mais après, moi, sincèrement, je demande aussi si le fait que devant lui, on a quand même senti le départ assez tendu, déjà avec les freins de Kobayashi et compagnie. Oui. Apparemment aussi un peu la fébrilité de Maldonado.
Comme Rosberg,
je me demande si tous les pilotes, en tout cas dans les 6-7 premiers, se sont pas un peu dit, bon, devant, il n'y a pas que des gros. Il y a peut-être un coup à jouer au départ. Et je me demande si certains pilotes, Maldonado, Grosjean, ont pas voulu un petit peu trop tout jouer au départ en se disant, bah finalement, devant, il y a une Force India, il y a des mecs qui sont prenables, quoi. Je suis du bon côté. Donc, est-ce que je peux pas essayer justement de les prendre? Je me demande si quand même il y a pas aussi ça qui a un petit peu joué dans le niveau d'agressivité et d'intensité qu'il y a eu dans ce départ.
C'est clair qu'il y avait un gros bouchon à la source quand même.
Eh ben, il a sauté.
On va y revenir.
Vous voyez maintenant, tout le monde dit, ouais, Dino, depuis que t'as ton permis, on n'ose plus te sortir chez nous. Eh, Grosjean, il a son permis depuis 10 ans. Et donc, au contraire, quelle actualité, toujours hors Grand Prix et hors Michael Schumacher. Faut rappeler quand même, on parlait de Michael Schumacher. N'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
Que Lewis Hamilton se casse de chez McLaren.
Pourtant, ça devient de plus en plus probable.
C'est
vrai que...
Oui, et c'est pour ça que je le dis. Il en a fait de belles, quoi. C'est pour ça que ça a polémiqué avant la course, d'ailleurs. Il est formidable. J'adore son Twitter. Je vous conseille à tous de le suivre. Si vous savez pas effacer un tweet, il vous fait un cours, ça prend 3 minutes, c'est génial.
Et sinon, est-ce que tu as un drive-through?
Je voulais pas le mettre à Grosjean, ça serait trop simple. Ah, zut. J'ai un trou, hein, si tu pourrais, quand ça me revient pas, je...
Ouais. Voilà, Shinji, t'en as un? Tu veux que je fasse le mien, peut-être?
Ouais, vas-y.
Donc, moi, j'en ai un pour... j'ai hésité, je me suis dit, oh, il y aurait plein de trucs à mettre, mais je pense qu'on va parler de ces sujets-là, donc j'en ai mis un à Bruno Senna. Ce qui est dommage avec Bruno, c'est que depuis le début de saison, il arrête pas de nous dire dans les previews, c'est l'un de mes circuits préférés, voilà, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il se contente généralement de dire, c'est l'un de mes circuits préférés. Et là, quand il arrive à Spa, et qu'il dit, c'est l'un de mes circuits préférés, tu dis, bon, alors, soit tu n'as strictement aucune hiérarchie de valeur dans ton jugement.
C'est possible.
Ce qui est pas impossible. Soit tu dis un petit peu n'importe quoi, n'importe quand, et tu nous prends un peu pour des cons dans tes previews. Donc, voilà, c'est juste à un moment donné, à force de dire tout le temps, c'est l'un de mes circuits préférés, on va arriver à la fin de la saison, on va dire, c'est le 100 championnat préféré de Bretagne, c'est là. C'est normal, c'est le seul qu'il a fait au complet. Ouais!
Mais si tu regardes, souvent, t'entends les pilotes dire, 4, 5, 6 fois dans la saison, c'est mon circuit préféré.
Oui?
Oui, oui.
Mais disons, tu vois, le pire, c'est que t'en as certains qui le disent, mais au moins, ils arrivent à trouver des trucs à dire quand ils arrivent vraiment sur un vrai truc, quoi. Tu sens qu'ils sont, c'est des previews, donc c'est vrai, quand ils vont sur la Chine, ils disent, ah, c'est un circuit que j'aime bien, c'est un de mes préférés. Mais tu sens quand même que quand les mecs, ils revivent quand ils arrivent à Monaco, à Silverstone, à Spa, en tout cas, voilà. Les mecs, il y a une étincelle, le truc. Et non. Lui, Bruno Senna, c'est à chaque fois, c'est l'un de mes circuits préférés. Là, tu te dis, alors, Non, quand même, passe pas. Encore le Hungaroring, je veux bien l'autoriser, mais c'est pas. Donc j'ai hâte d'être à Abu Dhabi.
C'est très corporate en général, les discours sur les circuits d'Abu Dhabi, correct.
Ouais.
C'est très politisé. Mais
c'est ce qui était criant. Moi, j'aime beaucoup faire l'article sur le point de vue des pilotes de jeudi. Enfin, vous voyez vendredi généralement. Mais j'aime beaucoup faire ça parce que ce qui est très criant, c'est que là, finalement, sur Spa, ils ont strictement rien à dire. C'est-à-dire que, je le dis même au début, ça frôle quasiment la banalité. Tellement ce que disent les mecs ils disent, voilà, c'est tellement unanime que, voilà, c'est juste, bah ouais, on aime tous venir à Spa, c'est le meilleur circuit du monde, etc. Et ils ont pas grand chose à dire, ils ont pas d'argument à donner pour se justifier. Puisque c'est Spa, donc, le mec qui te dit, j'aime Spa, tu lui crois, il a pas besoin de t'expliquer pourquoi. Alors que quand le mec te dit, à propos du circuit de Bahreïn, j'adore Bahreïn, là tu dis, bon alors faut que tu m'expliques quel virage, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance? Ensuite, qu'est-ce que tu penses des températures? Est-ce que tu trouves que les réglages sont passionnants à faire et compagnie? Donc voilà, généralement les plus longs, vous verrez, c'est ceux de la Chine et du Bahreïn, ça c'est souvent assez long.
Sinon, quand t'as... Bah, c'est pareil, je vais pas choisir la facilité, enfin, je vais prendre quand même la défense de Lewis, parce que, entre guillemets, bon, ses tweets ont peut-être pas forcément été de grande qualité, mais pour une fois, entre guillemets, qu'on a eu un discours non policé, voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça a été repris en main par le service com de McLaren qui a fait enlever les tweets
C'est ça qui est dommage surtout.
Voilà, c'est bah oui, bah c'est pour moi si c'était Drive-Thru, c'est contre McLaren quoi d'avoir demandé parce que a priori c'est eux qui ont demandé à Lewis d'enlever les tweets.
McLaren ou peut-être son équipe de com.
Oui, voilà, son équipe de com, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment dommage. Même si il a quand même fait un truc qui se fait pas, il a quand même balancé sur Twitter une feuille de télémétrie.
Ah, c'est ah bon oui, ça.
Que Christian Horner a dit aujourd'hui, oui, on va tous l'éplucher.
Bah, carrément.
Ouais, évidemment.
Même si tout le monde s'accorde à dire, je crois que c'est Gary Anderson à BBC qui a dit, il a dit, ils vont rien apprendre de révolutionnaire pour l'équipe.
Non, mais.
Voilà, ils vont juste mieux interpréter, ils vont avoir un élément pour pouvoir interpréter concrètement peut-être la performance des qualifications du meilleur tour. Mais ils disent juste, voilà, c'est une faute professionnelle dans la mesure
ah
où
oui,
c'est,
ça tient,
quoi qu'il arrive.
Ça tient limite du secret professionnel, une feuille de voilà, télémétrie.
C'est une information qui est privée à l'équipe, la balancer comme ça publiquement, c'est le mec qui est capable de balancer ça sur Twitter, bah peut-être qu'il sera capable de balancer la stratégie.
Oui.
Je crois qu'il y a un mec sur Twitter qui lui a dit, dis Fernando, tu, oh mince, oui. Je les confonds maintenant. Bon, c'est vrai que ce week-end au premier virage, on confondait un peu leur voiture. Mais c'est dit, Lewis, pourrais-tu également nous dire ta stratégie et ton type de pneu que tu vas choisir?
On sait jamais, mais Lewis, c'est un lascar, hein. Quand tu vois par exemple le Twitter de Weber qui est il est superposé le garçon Lewis, il est là à se prendre en photo avec ses potes, c'est cool Lewis mais on s'en fout en fait.
Donc apparemment entre guillemets l'incident est clos, il y a quand même eu visiblement une grosse engueulade de la part de Martin Whitmarsh et il a eu droit aussi à rendez-vous dans le bureau du grand patron chez Ron Dennis ce lundi. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pareil, on parlait, voilà, est-ce que Lewis peut rester chez McLaren et tout ça. Entre guillemets, c'est le genre d'événement qui seul ne pourrait pas décider. Mais tu sais, tu dis que toutes ces petites choses additionnées, qui s'accumulent, et après tout, c'est toujours en négociation hein, entre McLaren et Lewis. Hein.
Surtout, ce qui est terrible, c'est la grosse erreur de com, c'est que quelques jours auparavant, il dit dans une interview, alors tout le monde depuis plusieurs semaines dit qu'il y a des discussions, comme quoi on a demandé à Button d'aider Lewis. Lui, il dit, alors Button dit, non, je vais pas aider Lewis tant que c'est pas obligé. Donc, grosso modo, tant que je suis pas mathématiquement éliminé de la course au titre. Et Lewis a répondu, non, si je veux gagner, c'est parce que je suis le plus rapide et je veux pas d'aide. Et là, malheureusement, le week-end juste après, il se plaint sur Internet, qu'il a pas le meilleur matériel et compagnie.
Avec la feuille de télémétrie, avec des annotations dessus pour dire, regardez, là, il y a une différence, hallucinante.
Mais même,
hallucinant.
Sur le premier tweet, comment dire.
C'est juste du blabla au premier tweet.
Oui, voilà, il dit juste, voilà, merde, putain de bordel, c'est de la frustration. C'est là où je comprends pas McLaren, il devrait juste dire, bah écoutez, c'est normal, c'est un pilote frustré, c'est le coup de la colère, il parlait à chaud et compagnie. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire là, dire, écoutez, voilà, il est à chaud, Lewis est un compétiteur. Ce qu'ils ont fait par le passé, c'est là aussi, ce qui est étrange, quoi, c'est que par le passé, ils ont toujours fait ça. Là, aujourd'hui, ils cadenassent sa communication comme, et le fait de cacher, de couper comme ça, ça donne vraiment l'impression que ça cache quelque chose.
Oui.
Même s'il y a rien derrière, mais tu te dis juste, il coupe le truc, il retire le message, ça cache quelque chose. Alors qu'en plus, Lewis était lui-même en train d'essayer de résoudre le truc en disant, oui, comme disait Ali G dans Le Dictateur. C'est, à un moment donné, faut qu'il refasse le casting, mais, voilà. Au passage, faut soit qu'il renvoie sa DVD tech parce que elle est pas très riche, hein. Ça fait quand même deux fois que pour s'excuser, il nous sort les mêmes références. Et je trouve, justement, alors à la fois, je sais pas comment l'interpréter son deuxième tweet, c'est, je me dis, soit il nous sort un peu à l'IG pour nous dire, ouais, c'est de l'humour et à un moment donné, juste tout justifier sur le fait que c'est de l'humour, faut arrêter. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas non plus une réponse super intelligente de sa part, en ressortant le truc à l'IG, en clin d'œil à ce qu'il avait déjà dit par rapport à Monaco, où il avait essayé de reprendre sur ses déclarations. J'aurais trouvé ça drôle, tu vois, ça se serait arrêté là, j'aurais trouvé ça drôle. Mais le fait de supprimer les tweets, derrière, ça se dit, ah, il y a un truc à cacher, quoi. Ça donne une toute autre dimension à l'histoire. Et le fait que le lendemain, il remette sa télémétrie, là, tu te dis, bon, bah, voilà, ok, d'accord, le mec, ils sont pas du tout d'accord chez McLaren sur comment on communique.
Ouais. Caractériel quand même.
Mais en même temps, moi, c'est comme ça que je préfère Lewis. Hein. Quand il a ce caractère-là et que que ça transparaît. Moi, le Lewis un peu bad boy sur la piste ne me dérange pas. Si en dehors, dans le paddock, on le voit aussi un peu bad boy. Le problème, c'est qu'on le voit tellement lisse en dehors. Enfin, lisse au sens où on nous présente l'image un peu parfaite et compagnie.
C'est toujours un peu comme ça chez McLaren. Hein. Ah, sinon, Elder, t'as retrouvé...
Écoute, je retrouve pas celui que je veux mettre. Alors, j'ai commencé à réfléchir pour faire plaisir. Un drive-through à Ferrari, au service de com de Ferrari, en fait, qui est tout le temps en train de nous dire que leur Ferrari, leur voiture, elle est à la traîne, qu'ils galèrent,
oui,
qu'ils durent la vie, qu'ils y arrivent pas. Oui, oh, on a 24 points d'avance, mais regardez Massa, bon, il a fait une course formidable. Ouais, enfin, il aurait fini 8e ou 9e s'il n'y avait pas eu un strike au départ, au bas mot. Ouais, il faut qu'ils arrêtent, en fait. Ils ont une voiture qui se défend super bien maintenant, et c'est pas que le surpilotage de Alonso, je pense, qui transcende sa voiture, clairement. Moi, j'étais pas fan du garçon il y a quelques temps, mais il transcende sa voiture, quoi, clairement. Mais voilà. Un drive-thru à Ferrari, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils ont une bouse. On n'y croit plus.
Oui, c'est, voilà.
C'est rigolo, quoi, de les voir communiquer comme ça et de dire, ouais, c'est ça. Arrête de raconter ton char, Fernando. T'as une bonne voiture. Arrête de dire le contraire.
Mais je pense que Fernando, il est pas espagnol. Il doit avoir du sang roumain, en fait. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un temps petit point. S'il vous plaît. C'est bon, on a compris, Fernando. Tu les as tué trois fois, les autres. Je crois qu'ils ont compris que t'as une bonne voiture, en fait.
Allez, messieurs, on va passer au week-end de course. Et c'est vrai, vendredi, il pleuvait. Mais samedi, il n'a pas plu. Ils ont roulé et il y a eu les qualifs. Et cette semaine, une place du con, je pense qu'il l'a, il a déjà dû l'avoir, mais il y a longtemps. C'est Nico Rosberg.
Bravo.
Notez-le, parce que c'est la seule fois que vous le verrez de tout le week-end et de toutes les missions.
Oh non, on l'a vu à un moment donné avec Vergne.
Oui.
Voilà, je confirme, dans l'émission, on n'entendra plus parler.
Ah oh oui.
Une fois, mais rapidement.
Pour une fois que c'est pas Vergne qui a la place du con. Hein.
Ah, je suis en train de défleurer le classement du SAV. Mince. Vite, tu dis embryon. Il faut que je me coupe au montage.
Ensuite, en Q2. Mais on a eu un tir groupé des Toro Rosso qui ont fait 15 et 16. Ce qui est... Ouah, c'est...
traditionnel.
Bien, traditionnel, avec Vergne devant en qualif, c'est plutôt bien, souvent c'est plutôt Ricciardo qui est devant lui. Massa 14e. Sur le coup, on se disait, ouais, bon, ce Grand Prix, ça va être comme tous les autres Grands Prix. Eh, non.
Il y a de la surprise, hein.
Donc Schumacher qui ne fait que 13.
Comme hein, d'hab, hein, presque, j'ai envie de dire aussi.
C'était mieux que l'an dernier.
Oui,
tout à fait.
Et le problème des freins, puisque tiens, nous allons reparler une deuxième fois de Rosberg. Le problème des freins l'année dernière à Spa, c'est Rosberg qui l'avait eu avec de la fumée qui s'échappait, il me semble que c'était à Spa.
Bah, faut dire aussi que les mecs, ils ont un gros freinage juste avant de se mettre sur la grille pour bien chauffer les freins. Donc.
Oui. Hülkenberg 12 et la déception de cette Q2, ça a été Vettel hein, qui n'a fait que 11e. Même si
Vettel n'était pas déçu.
Ah, il a quand même
Vettel, il a dit voilà, la voiture elle a marché comme on s'attendait à ce qu'elle marche. Il a avoué que c'était quasiment lui qui c'était quasiment de sa faute, voilà, qu'il n'avait pas su faire la différence, qu'il n'y avait rien à la voiture et que les écarts étant tellement serrés, ben voilà, c'était.
Je crois qu'il a 3e avec Weber, il me semble, de mémoire.
Ouais.
Ça. Hein. Donc t'imagines, tu passes de 5 à 11.
Ouais. Et donc en Q3. Paul Di Resta, une Force India encore en Q3. Romain Grosjean, donc, qui s'était qualifié en 9e place.
Ah, la belle place.
Juste derrière Lewis Hamilton. Hein,
bon. Le trio gagnant.
Pas pour le
trio gagnant.
Marc Weber, qui peut s'estimer heureux d'avoir été pénalisé. non, mais c'est vrai, quoi, parce que quand vous regardez la liste quand même qu'il y a devant, vous vous dites, ouais, parfois c'est bien les pénalités.
Je pense qu'il a pris son avion, il est allé à Monaco, il a été prié à Sainte-Dévote et ensuite il s'est remis en route vers l'Italie. Hein. Ouais. Parce que là, ouais, sa pénalité fabuleuse.
Puisqu'en 6e place, bien évidemment, c'est Fernando. Hein. Donc autant dire, ils étaient tous à la suite. Sergio Pérez qui a fait 5 autant.
Manquait que le pic.
Il était derrière.
C'est Grosjean qui l'avait.
Pérez qui fait 5. Très bon score pour les Sauber, on va voir ça. Raikkonen qui fait 4. Un peu décevant quand même.
C'est pas trop mal, hein. Il est réussi pas très 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 bien ses qualifs en général, hein.
Et puis sur le week-end, les Lotus n'ont pas non plus paru impériales. C'est vrai que ceux qui ont le plus payé le manque de la pluie, ils ont décidé vraiment la semaine matin de pas utiliser le DRS. Ça leur a coûté cher.
Ils n'utiliseront pas Monza.
Ouais. Donc à un moment donné, on se demande juste quand est-ce qu'ils vont l'utiliser.
Donc à Singapour
l'année prochaine. Donc
est-ce que ce serait pas de la mythologie grecque ce double DRS finalement ?
C'est pas impossible.
Non mais le DRS a très peu d'efficacité à Monza. Donc, vu qu'il y a déjà très peu d'appuis.
Oui. Mmh. Oui, mais on a vu l'an dernier que c'était pratique d'avoir des appuis qui t'a sacrifié un peu les vitesses de pointe.
Oui.
Surtout pour une voiture comme la Lotus qui est très bonne en appui, mais pas forcément dans les portions rapides.
Oui, ça risque d'être plus compliqué pour la Lotus dimanche.
C'est ce qu'on disait pour Red Bull l'an
oui,
dernier.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais l'année dernière, la Red Bull, c'était un ovni aussi, hein. C'était pas une Formule 1, quoi.
Oui.
Enfin, la Red Bull devait-elle, hein, surtout.
Cette année, c'est la Lotus qui est un ovni, c'est un objet volant dans l'identité.
Pastor Maldonado qui, à l'origine, donc, se classe 3. Là encore, une belle qualif. Et un classement historique pour Kamui Kobayashi.
Oh, le samouraï.
Sa meilleure place sur une grille. Et aussi, historiquement, pour le Japon, hein, c'est, bah voilà, pour les Japonais, il leur manque plus que la pole position.
J'ai adoré sa tête quand on lui a dit « Vous êtes le japonais le plus rapide de l'histoire ». Et il a regardé Button, genre « Ah bon ?» Avec un sourire « Ah bon ?»
Ah bon. Et donc, la première pole de Jenson Button pour McLaren.
C'est passé totalement à la...
Le pire, c'est quand même un truc énorme. Je veux dire, c'est que la première pour McLaren. Et ouais, c'est que la première pour McLaren.
Mais ouais.
Et c'est sa première pole, donc, depuis Brawn. Donc, ça fait déjà...
3 ans.
Voilà.
Ils se sont trompés d'ailleurs sur TF1 parce que sous le coup de l'émotion, j'imagine, il me semble à la fin, ils ont fait c'est sa première victoire depuis 3 ans. Ils se sont trompés parce que ils ont peut-être oublié l'Australie en fait.
Oui, et puis il y en a eu quelques-unes d'autres avec McLaren.
Ah, bon, quand même, oui. Button qui a vraiment été super bon, c'est-à-dire qu'il peut-être pas, ça s'est pas forcément vu en Q1, mais notamment dès la Q2, il était en tête. Vraiment très belle qualif de Button.
Il était au-dessus du lot, ouais.
Alors que il y a encore quelques semaines, il avait du mal et quand il nous disait oui, c'est bon, j'ai compris les pneus, on le croit maintenant, c'est bon.
Ouais, parce que son style de conduite où il économisait anciennement très bien les gommes, là, ça semblait pas lui convenir. Enfin, sa conduite convenait pas aux pneus, quoi.
Bon, faut quand même aussi noter que c'est encore une fois, c'est quand même une séance qui s'est jouée dans des conditions très particulières, qui étaient, voilà, ils n'ont pas pu préparer vraiment le week-end, donc c'est finalement celui qui a peut-être le moins besoin d'une voiture précise, peut-être là pour le coup. Je pense que ce qui peut-être dérangeait Button depuis le début de saison, c'est qu'il avait besoin de travailler sur la voiture, de trouver le bon réglage pour être rapide. Parce qu'il y avait du potentiel à aller chercher. Là, finalement, en ayant que 1 heure le matin plus un peu la qualif peut-être pour se régler, finalement, il a juste changé 2-3 trucs et la voiture lui allait bien. Et comme les autres n'ont pas eu le temps vraiment d'aller au fond des réglages comme ils en ont l'habitude, peut-être que lui, quand il y a 2-3 réglages seulement à faire, il a le nez beaucoup plus fin que les autres quand ils ont vraiment du temps pour creuser. Et je pense que c'est là où il fait la différence. Même si l'écart n'est pas si énorme que ça en pourcentage. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a dominé les qualifs et en fait c'est parmi les qualifs
avec Kobayashi quand même. Voilà.
Par rapport à la taille du circuit, sur pourcentage du tour, c'est je crois le plus petit écart entre le premier et le deuxième depuis Bahreïn en Q3.
Ah oui.
Donc c'est relatif à la distance du circuit, mais il a pas vraiment dominé. Bon, il se trouve qu'il a tout le temps été devant, donc. On a un peu l'impression qu'il appuyait sur le bouton push to pass et qu'il était encore 2-3 dixièmes derrière.
Il était en pilote automatique, ouais.
Alors à noter, hein, parmi les déclassements, donc Weber et Rosberg ont été rétrogradés de 5 places pour changement de boîte. Et donc Maldonado, il a été rétrogradé donc de 3 places. Non, pas 5, pas 10. 3.
Hein. Ouais. Et on applaudit les commissaires pour les 3 places aussi. Voilà.
Donc pour avoir gêné Nico Hülkenberg durant les qualifications.
Alors l'explication est géniale, c'est que il a gêné, mais ça n'a pas eu d'impact, donc on est un peu clément. Ouais. Ok. Ouais. On rappellera quand même que ce sont les mêmes commissaires qui, le lendemain, vont donner une pénalité, sans doute historique, en tout cas, au regard des 15 dernières années, à Romain Grosjean, en expliquant, il n'y a pas eu de conséquences graves, mais il y aurait pu en avoir, donc on va être sévère. Alors que la veille, ils ont dit, il n'y a pas eu de conséquences, donc on va être clément. À un moment donné, c'est juste que les commissaires disent un peu des conneries, quoi. Enfin, il faut juste qu'ils se mettent d'accord sur leur niveau de graduation. Et soit ils sont sévères avec tout le monde, soit ils sont cléments avec tout le monde.
Je me demande si je peux intervenir là-dessus. Si la punition n'a pas été donnée à Grosjean au regard de tout ce qui s'est passé durant le week-end, non. Que en F1, non. Parce que GP2,
non, parce
ils sont gaufrés.
Quand tu lis, alors justement, moi, c'est sur la pénalité de Grosjean, pour un peu déblayer le sujet. Moi, la pénalité, je la trouve méritée au regard de ce qu'il a fait depuis le début. Moi, ouais. Ça fait des années que je milite pour qu'on ait des pénalités plus fortes. Je regrette juste qu'elle tombe sur Grosjean, alors que d'autres l'auraient mérité, et surtout qu'elle tombe à un moment donné où on n'a aucune communication de la FIA, et surtout qu'elle tombe alors que Grosjean, fondamentalement, depuis le début de saison, n'a jamais été dans l'œil du cyclone de la FIA. Il a eu des accidents, il a eu des problèmes dans les départs.
Parce qu'ils ont sorti comme argument que justement, il avait un dossier et que c'était une fois de trop. Mais c'est un des arguments qui a été invoqué.
Oui, ils ont dit que c'était au regard de ce qui s'est passé dans toute la saison.
Quand tu lis le communiqué, ils n'en parlent pas. Quand tu lis le communiqué où ils justifient leur réponse, ils se contentent de dire qu'ils le punissent aussi sévèrement parce que c'est une grosse erreur. Voilà, qui aurait pu avoir des conséquences, blesser des pilotes. Bon, c'est le cas de plusieurs accidents qu'on a vus ces dernières années. Impacter des prétendants à la course de titre. On rappellera quand même que Grosjean est à quelque chose comme 100 points de Fernando Alonso, qu'il reste 200 points à partager, donc Grosjean est encore, aux dernières nouvelles, un prétendant au titre. Voilà, que la FIA peut pas décider, tiens, il y a des prétendants au titre ou pas. Il y en a mathématiquement qui sont plus dans la course de titre, il y en a qui le sont encore. Donc Grosjean en fait partie. Et dans le communiqué officiel, en tout cas celui que j'ai lu, sur plusieurs sites, il est jamais question du fait que c'est sur plusieurs grands prix. Ça a peut-être été pris en compte. Mais dans ce cas-là, si c'est pris en compte, faut aussi qu'il y ait une graduation parce qu'on peut aussi leur envoyer l'argument, c'est leur dire, dans ce cas-là, pourquoi Maldonado, lui aussi, a plusieurs fois fait des erreurs similaires, pourquoi est-ce qu'il est jamais pénalisé aussi durement que ça? Et moi, surtout dans la pénalité, quitte à avoir une pénalité très forte, je suis pour les pénalités fortes, mais il faut que ça se fasse avec une graduation. Genre, dire là, par exemple, fallait dire au premier truc, vous avez une réprimande, prochaine fois c'est 10 places, il recommence, il a 10 places, on dit, prochaine fois, c'est exclusion d'un Grand Prix. Voilà, et au moins, les trucs sont clairs. Là, je trouve que, sans qu'on critique la pénalité, c'est un peu la pénalité qui tombe un peu dans ses joues, qu'on n'a plus vu depuis longtemps, qui est extrêmement spectaculaire, et qui, je comprends que ça... Moi, j'ai eu le sentiment d'injustice, parce que je me dis, pourquoi lui et pas d'autres, pourquoi est-ce qu'on sort cette pénalité? Et c'est pas la différence du commissaire pilote qui change quoi que ce soit. Hein.
D'accord.
Juste,
on termine ça, puis vous inquiétez pas, on y est bientôt au moment sur le
Oui, mais c'est ça larve depuis.
Voilà, c'est pour ça. Le bouchon va bientôt sauter, vous le sentez. Hein. Donc juste préciser que c'est la 8e pole pour Jenson Button. Il n'a fait que 8. Hein. 151e pour McLaren, 87e pour Mercedes, à une moyenne de 234,393 km/h. On va passer au top 10. Donc voilà, donc j'ai presque envie de dire, c'est presque l'accident de l'année. Là, pour l'instant, espérons qu'il n'y ait pas pire. Hein, je crois que rarement, cette année, on aura parlé autant d'un accident. Moi, j'aurais juste évoqué un truc. Ça aurait pu être mon drive-through. J'ai failli. C'est quand même, par rapport à beaucoup de... Alors, c'est pas spécialement fan et fin. Hein, c'est généralement sur plein de sites et tout ça. C'est parfois l'opinion qui a, entre guillemets, explosé parfois envers Grosjean. C'est-à-dire que en lisant parfois certains commentaires, t'as l'impression que Grosjean, en un virage, c'est devenu la pire merde qui a jamais roulé dans une F1.
Eh bien, voilà.
Voilà. On peut considérer que Grosjean est un pilote surévalué, que c'est un pilote moyen et tout ça. Là, quand même, faut pas oublier que Grosjean, il a quand même fait des choses. Il a fait plus de résultats en une demi-saison qu'un certain nombre de pilotes qui sont actuellement en F1 et un certain nombre de pilotes qui ont été bien plus longtemps en F1 que lui. Hein. C'est un vœu pieux, hein, parce que c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est Internet. Hein. qui veut ça et qui fait ça.
Pas forcément internet, je pense que c'est le fait d'être fan. Tout simplement, je pense que les gens qui ont été peut-être dans les commentaires les plus sévères, alors, c'est pas seulement le fait d'être fan, parce que par exemple, je suis fan de Fernando Alonso et pourtant je suis très compréhensif envers Grosjean. Mais je pense que c'est aussi le fait d'être fan. Il y a des gens qui jugent seulement parce que bah voilà, ils ont foutu Hamilton dehors ou ils ont foutu Alonso dehors et que c'est leur pilote chouchou, donc forcément l'autre en face c'est un gros connard. Voilà, c'est malheureusement c'est dans la nature humaine.
Parce que tu disais justement hein, sur l'injustice par rapport à certains trucs, quand t'entends certains oui qu'il aurait dû avoir plus de courses de suspension, certains disent oui que en gros faut lui retirer sa super licence, hein, faut plus jamais qu'il roule en F1. Hein. Franchement c'est des trucs parfois qu'on a lu. Hein. Voilà, je trouve ça bon, c'est à chaud, hein, c'est des choses qui sont à chaud. C'est dommage parce que c'est vrai que ce qui s'est passé pose énormément de questions. Hein, c'est un débat vraiment intéressant. C'est dommage de résumer à Romain Grosjean uniquement à ça. C'est pas que ça.
Ouais. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que justement, tu dis que c'est un débat intéressant. Moi, pour être assez régulier sur les sites italiens et pour par des formations, je vais pas dire professionnelles, parce que je suis pas professionnel, mais par des formations d'être rédacteur, je consulte pas mal les sites anglais. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, là où j'ai trouvé sans doute les avis les plus intéressants à lire, c'est sur des sites italiens et des sites anglais. On rappellera quand même qu'il a foutu dehors
oui.
Un champion du monde britannique dans une écurie britannique et un champion du monde espagnol, mais qui groupe pour la Scuderia Ferrari. Donc le mec, il aurait quand même de quoi être testé sur des sites italiens ou sur des sites britanniques. Et pourtant, je trouve que les avis sont relativement compréhensifs. On a l'impression vraiment que les gens sont abasourdis par la pénalité. On va en discuter sans doute de la oui. Justification de la légitimité de la pénalité, mais la pénalité est tellement forte que ça fait beaucoup réagir les gens et compagnie. Et c'est vrai que nous, le premier réflexe, mais c'est un truc qui est quand même très français, quoi. C'est qu'on est, très prompt à s'enthousiasmer, mais aussi oui. On est très prompt à donner des leçons de morale et à venir enfoncer les mecs. On peut parler de l'équipe de France de football où on est très prompt à dire, voilà, c'est des cons et compagnie. Mais derrière, quand ils font des bons résultats, bon, ils en font pas en ce moment, mais quand ils en font, on les soutiendra, on s'enthousiasmera oui. Derrière eux. Mmh. Voilà, c'est toujours un peu ça. Il y a toujours une minorité de gens qui sont toujours en train d'être dans l'opposition systématique, voilà, c'est.
Est-ce que le fait que en France, hein, je sais pas comment ça se passe sur les diffusions en Belgique ou en Suisse pour les pays francophones, est-ce que c'est pas la surmédiatisation et Romain ceci et Romain notre pote et Romain blablabla et notre collègue alors Madame Grosjean etc. Est-ce qu'à un moment donné aussi ça il y a trois Français et on parle que de lui, d'accord, il est dans la meilleure écurie sur les trois, c'est lui qui a le plus de chances parmi les Français de d'arriver à une victoire. Mais est-ce que c'est pas le fait que TF1 nous en fasse bouffer en long, en large et en travers
hein. Oui, même nous.
Hein. Et même nous. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, dans ce truc-là, il faut bien évidemment juger la responsabilité de Grosjean, qui fait une connerie, une erreur de jugement, qui doit être pénalisé. Ça fait aucun doute.
Moi, oui, enfin, oui.
J'ai lu des commentaires. Il est quand même à 90% responsable. Non, il est à 100%
oui,
responsable.
Oui, à ça, faut bien être clair.
Il est à 100% responsable.
Je sais pas, toi, Eder, tu dis, faut bien le dire, il a fait une connerie, il est responsable de ce qui s'est passé.
Voilà, il est à 100% responsable.
Ah oui. Pour moi, c'est lui le responsable et il l'a reconnu aussi.
Mais derrière, il faut aussi que chacun aussi s'interroge sur la responsabilité de tout le monde. Je pense qu'il y en a pour le moment qui n'ont pas l'air vraiment de se poser la question, en tout cas publiquement, c'est Lotus. On peut se demander pourquoi Lotus, qui est quand même l'écurie de ce pilote-là, qui a quand même vu plusieurs fois des accidents au départ et compagnie, pourquoi est-ce qu'on l'a pas cadré? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis quelqu'un à côté de lui? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé chercher, par exemple, un ancien pilote? On avait ce débat avec Elder sur Twitter. On peut se poser des questions aussi sur l'entourage. On l'a fait sur Lewis Hamilton l'an dernier, faut le faire aussi sur Grosjean.
Il y a cette question qu'a posée oui. Alonso qui a été une des premières victimes.
La réaction d'Alonso, elle est géniale.
Qui est d'une intelligence. Voilà quelqu'un qui peut faire avancer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les gens qui viennent du GP2? Parce que justement, on a beaucoup tapé sur Maldonado. Il a encore, d'ailleurs, là, il a encore 10 places de pénalité pour Monza. C'est vrai, on peut pas. Alors après, c'est vrai qu'en plus, les gens se sont emmêlés par rapport à ce qui a été dit. entre ses abandons, ce qui s'est passé au départ, parce qu'il y a aussi eu des contacts qui n'étaient pas au départ.
Oui, parce qu'en fait, ils ont repris les déclarations de Lewis Hamilton, brut pour point.
Voilà.
Ils ont dit que Lewis Hamilton, quand il dit, ça fait quand même 7 fois qu'il a un problème en 12 courses, Lewis Hamilton dit ça à chaud, il n'a pas Internet, nous on l'a. Donc la moindre des choses, c'est que nous qui avons du recul, parce qu'on n'est pas un acteur direct, c'est prendre un peu de recul et dire, bon, est-ce que vraiment ce qu'il dit, avant de reprendre ses arguments, vraiment ce qu'il dit est vrai, c'est voilà, corriger ce qu'il dit, c'est pas forcément nier ce qu'il dit. Quoi.
Ah, mais après, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes au niveau du départ avec Grosjean. Voilà, faut le dire aussi.
Et donc, mais globalement, je dirais, les trois pilotes qui font le plus polémique ces dernières années, c'est trois anciens GP2, enfin champions de GP2. Grosjean, Maldonado, Hamilton, c'est trois mecs qui sont trois anciens champions de GP2 et qui posent des problèmes. Alors,
et on a nous-mêmes souligné cette année, alors notamment cette année...
j'ai mis un drive-thru aux pilotes de GP2.
Voilà, que c'était un peu n'importe quoi le GP2 en ce moment.
Mais il y a
encore vu ce week-end.
Ce week-end c'était rock'n'roll, mais il y a Alonso qui dans sa déclaration là, je crois que ça a été fait aujourd'hui.
Après
course. Où il disait, c'était après course. Hein, où il disait.
Ah, c'est dans le communiqué officiel de Ferrari.
Voilà, où il faut qu'il commence à sanctionner réellement, mais dès les premières catégories.
Très tôt, ouais.
Et il a peut-être pas tort, parce qu'effectivement, j'ai pour une fois durant un week-end, j'ai pu regarder les courses GP2 et GP3 et Porsche Cup d'ailleurs au passage. Et dans les trois, il y a eu des cartons de malades. Les mecs, c'est des sauvages. Hein. Il y a eu un duel Berton contre je sais plus qui. Berton, il a failli faire une traînée de 150 mètres de long avec son corps dedans, quoi. Parce que l'autre, il l'a tassé sur l'ancien mur des stands. Tu fais, mais waouh.
Et c'est des gens qui quand même envisagent de passer en F1, quoi. Donc.
Mais même attends, ils arrivent à 250, quoi. Tu te dis oh.
Mais même, c'est en Italie, sur un site italien, j'ai regardé, il disait, le truc, c'est que la Formule 1, c'est quand même un truc de professionnel, que les équipes attendent des pilotes professionnels, et c'est vrai qu'on peut pas, quand je dis qu'il faut que, par exemple, Lotus mène une réflexion, elle aussi, maintenant, on peut aussi comprendre que Lotus, qui paye quand même un pilote, je crois qu'il est payé 1 million d'euros, plus des bonus, Grosjean, pour sa saison, une équipe qui paye un pilote, attend lui qu'il soit professionnel, donc, c'est aussi la formation, elle doit se faire en aval, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont en train de créer des structures en GP2 et en GP3, peut-être justement pour avoir des filières et faire ce même genre de choses, même si on a vu avec Vettel que ça n'oubliait pas non plus les erreurs, hein, qu'il y a toujours des pilotes qui font des conneries. Mais il dit, voilà, dans l'article sur Omnicorse, je vais citer le site, qui est un très bon site, sur Omnicorse, ils disent, il y a ça aussi, quoi, c'est qu'on arrive avec des pilotes en Formule 1 qui sont considérés comme des professionnels, sauf qu'ils ne sont finalement pas professionnels. Pourquoi ? Parce que les séries inférieures les mettent dans une situation de concurrence, mais pas dans une situation véritablement d'apprentissage et de construction. Donc voilà, aujourd'hui on a de formidables séries de promotion qui sont très spectaculaires et compagnie. Ça fait des années qu'on s'en réjouit. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de voir ce spectacle-là.
Ce qui est bien, c'est
que d'ailleurs, faut aussi regarder à quel coût se fait ce spectacle. Bah, il se fait au fait que c'est un peu le même problème qu'on a dans le football. Enfin, tout à l'heure, je faisais une comparaison avec le football. Le football, qui, à un moment donné, quand on parle du comportement des Bleus, on peut pas seulement reprocher aux Bleus ou à l'encadrement de l'équipe de France de faire mal son boulot, il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qui se passe dans les clubs, dès les poussées, dès les cadets, qu'est-ce qui se passe dans les petits quartiers, dans la formation, qu'est-ce qu'on rate, et il y a des choses qu'on rate, et je pense qu'il faut aussi se poser des questions sur, bah oui, ces comportements-là, c'est pas seulement, c'est peut-être rassurant de se dire c'est le comportement d'un homme, mais il faut aussi se dire, on va peut-être quand même vérifier pour savoir s'il n'y a pas, c'est pas une création d'un système, en tout cas si le système n'a pas non plus aidé à faire que ce comportement-là s'aggrave.
Mais il me semble qu'en GP2, pratiquement à chaque Grand Prix, il y a des voitures qui volent. Hein.
Ah, quasiment. Ouais, il y a des chocs.
Il y a des, ça coûte cher en carbone, hein, le GP2.
Et le malheur de Grosjean en plus, ce que tu disais tout à l'heure, Shinji, c'est que en plus c'est un Français, c'est le premier Français, ça lui monte certainement à la tête. Enfin, tout le monde lui reproche, quand je lis des commentaires qui lui reprochent de dire ah ouais mais il pète un peu plus haut que son cul, il arrête pas de dire qu'il veut la victoire, qu'il veut la pole et compagnie. Le fait est que c'est un pilote
hein.
Qui, s'il ne vise pas la victoire avec la voiture qu'il a, s'il ne vise pas la pole alors qu'il a fait des podiums, des deuxièmes places, etc. On lui reprocherait de pas dire bah oui je prends la victoire. On lui dirait qu'il se fout de notre notre gueule. Le mec, il le dit parce qu'il sait très bien que c'est aussi ce qu'on a envie d'entendre. Parce que nous, en tant que spectateurs, on est très content d'avoir un Français. Que en plus, le Français est un peu chauvin et ils sont. On est très content quand un Français réussit. Alors, on sent plus pisser quand un Français réussit quelque part. Alors là, c'est quasiment Dieu sur terre.
Et ouais, d'ailleurs.
Et voilà, je pense que ça c'est peut-être aussi un paramètre. Peut-être aussi qu'on se rappelle que ce sont des pilotes qui ont peu de Grand Prix, qu'il faut peut-être aussi leur laisser le temps. Et nous, ne serait-ce que nous, en leur mettant un peu moins de pression, en exigeant un peu moins d'eux, en du coup peut-être que les retransmissions télé vont peut-être justement un petit peu baisser un peu la voilure sur eux. Enfin, là on a senti quand même les commentateurs extrêmement gênés pour parler de Grosjean, parce qu'ils voulaient pas non plus descendre Grosjean pour pas paraître anti-français.
Moi, ce qui m'a le plus touché, tu sais quoi, c'est Lagorce à Dimanche et Fin, ce qu'il a dit. Où il a dit ça l'emmerdait quoi, parce que il soutenait à fond Grosjean, mais que malheureusement il était obligé de reconnaître la responsabilité de Grosjean dans ce qui se passait.
Oui, mais ce que j'ai pas aimé justement dans l'éclaration de Lagorce, c'est qu'il ne rejette la responsabilité de l'image que sur Grosjean.
Oui.
À aucun moment donné, il se demande est-ce que l'image qu'on demande à Grosjean de nous renvoyer, elle n'est pas un peu trop forte? Est-ce que demander à un pilote de représenter la France et de faire honneur à la France parce que c'est un pilote de Grand Prix, et c'est la même question qui se pose aujourd'hui avec les footballeurs, mais sincèrement, je trouve que il y a des passerelles entre nous footballeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien de demander à des jeunes de 20, de 25 ans, enfin moi je suis désolé, j'ai 28 ans, je m'imagine même pas qu'on ose me dire tu représentes la France, faut que tu sois à la hauteur quoi. Enfin, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres choses. Enfin, on se rend même pas compte du vide abyssal en face duquel les mecs doivent se
trouver. Et aussi,
à un moment donné, c'est sûr que les mecs, soit
ils pètent un plomb, soit
ils font de façon. Quand même, zéro pointé, c'est pour le service de com de chez Lotus de l'avoir laissé répondre aux médias.
Ah, c'est clair.
Parce que vu ce qu'il a répondu, ça, je veux dire, son image, ça pouvait pas s'améliorer. Parce que ce qu'il a répondu tout de suite, tu disais, il nous prend pour des cons.
Oui, d'ailleurs, je crois.
Regarde, en comparaison, Lewis Hamilton, et pourtant, il n'était pas responsable. Hein, c'était lui la première victime. Hein.
Il a rien dit.
Il a dit, vous me parlerez après.
Bon, faut dire aussi que chez McLaren, ils sont des, on va peut-être éviter de le faire s'exprimer à chaud.
En plus, je me rappelle
Ken, il a l'air d'être chaud.
Il avait un boulet rond dans les mains.
Oui.
C'est parce que justement. Après aussi, c'est un mystère. C'est pourquoi Lewis Hamilton, il est revenu avec ce bout d'aileron.
Eh bien, j'ai la réponse.
Ah.
S'il avait croisé Grosjean, il lui aurait fait bouffer son bout d'aileron.
Ah, mais il l'a croisé, hein. Parce que.
Oui, sur la piste, mais.
Sur la piste, juste après.
Il avait l'air énervé, hein, Hamilton, quand même. Hey, qu'est-ce que t'as fait, là?
Ça se comprend. Là aussi, je trouve que. Même, enfin, je trouve, il y a des gens. Je sais plus qui sur Fan F1 a mis comme commentaire, il a même pas regardé Alonso. Attendez, le mec il vient aussi de se taper une boîte à 160 à l'heure. Il est peut-être lui aussi sous état de choc. En plus, au moment où il arrive près de la zone de l'accident, parce que lui il est un peu plus loin, au moment où il arrive près de la zone de l'accident, il se fait alpaguer. Enfin, c'est pas alpaguer parce que Hamilton est pas méchant dans ce qu'il dit. Il dit juste voilà, t'as perdu la tête. Il est dans une altercation avec Grosjean. Moi je sais pas.
Il a été évacué par les commissaires de toute façon. Hein. Le médecin
il est direct sur Onslow et ils l'ont dégagé direct.
Voilà,
oui.
Donc c'est ça aussi, tu peux pas non plus arriver. Et même au-delà de ça,
il le dit, j'ai pas pu voir Alonso, j'espère qu'il va bien.
Mais en plus, sincèrement, j'aimerais aussi qu'il y ait certaines personnes qui se mettent parfois à la place du pilote. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été victimes d'un accident ou témoins d'un accident ou voilà. Moi personnellement, j'ai eu un événement dans ma vie où je me suis fait agresser chez moi. Il a fallu que derrière t'as les flics qui arrivent qui te posent plein de questions et à ce moment-là, tu te dis, écoutez, là faut que je me pose parce que c'est arrivé trop vite. Pourtant ça s'est passé 10 minutes avant, donc t'as eu le temps de te poser. Mais sous le choc, sous l'adrénaline, t'as plus les idées claires. Et alors derrière, le mec il rentre au stand. On lui tend des micros et on voudrait que le mec il soit communicatif, que tout de suite il ait du recul et compagnie. Mais même s'il a vu les images, c'est même pas sûr qu'il ait suffisamment de recul pour regarder parce qu'il a les versions de chacun, parce qu'il a pas eu le temps de se poser pour réfléchir, il est peut-être même pas en état de réfléchir. Voilà, donc c'est toujours aussi, là c'est le rôle des médias, on n'est pas non plus obligé de se jeter sur le pilote pour avoir sa réaction à chaud, parce que justement ce qu'on veut c'est sa réaction à chaud, c'est ce qui nous intéresse le plus. On peut aussi attendre la fin de la course, que le pilote vienne nous voir, on sait qu'il y a des points presse,
il viendra nous voir. C'est aussi à son équipe de dire, tu répondras pas, on fera ça après.
Voilà, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois sur Hamilton, voilà, c'est aussi à un moment donné, dans ces situations-là, les tenir, quand tu sens que ton pilote, il va être dans une situation où il est de fragilité en termes de communication ou personnel, bah, tu le contrôles, quoi. Il doit y avoir des gens autour. Là, il y a personne autour.
Alors, sous cet angle-là, est-ce que quand il y a un journaliste qui dit vous avez vu les images, alors réaction à chaud, et qui dit non, j'ai pas vu les images, est-ce que là, d'un seul coup, il se dit putain, qu'est-ce que je leur dis, j'ai pas envie de leur parler, quoi. Et il s'est retrouvé déstabilisé, ton histoire d'adrénaline, etc. Le stress, il a dû, malgré tout, fautif, pas fautif, il a dû, excuse-moi le terme, mais il a bien dû se faire dessus quand même.
Mais quand tu vois les images quand il est sur le muret, mais il est livide. Quand tu vois l'interview avec les journalistes, il est livide. Enfin, ouais. Moi, quand je regarde les images, je m'en fous complètement de ce qu'il me raconte. Moi, ce que je regarde, c'est que je vois un mec qui est, alors là, il est complètement choqué par, peut-être par l'accident, mais aussi par les conséquences qu'elles auraient pu avoir. Donc voilà, moi, c'est ça, il emmène pas large quand il est devant les caméras ou quand il est dans le muret, quoi. Je pense que c'est pareil, faut pas non plus faire de Romain Grosjean. C'est certain, j'ai l'impression qu'ils ont oublié que Romain Grosjean c'était aussi un être humain comme nous. Ça nous est tous arrivé de faire une connerie. On est 100% responsable. Peut-être qu'il a aussi des remords. Peut-être qu'il s'est aussi dit merde, voilà, j'ai fait le con. Derrière, il le dit. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on est tous pareils. Moi, le premier, je vais prendre mon exemple. Mais moi, le premier, on a toujours du mal à admettre qu'on a tort. On a besoin aussi de prendre un peu de recul. Et il faut aussi l'accepter. Il faut aussi être patient envers les autres. Voilà, on peut pas non plus, ça reste des hommes.
Ah putain, je vais finir par regretter qu'il ait eu une punition. Pourquoi tu fais ça, tes discours là?
Non mais après la punition, elle est méritée. Ce que je critique dans la punition, c'est le fait qu'elle sorte un peu de nulle part et
parce que
voilà.
Sur ça, sinon
elle est méritée.
Voilà,
quoi.
Sur la lourdeur de la punition, franchement, imaginons, il aurait pris que 10 places. On aurait dit c'est léger.
Bah ouais, c'est clair.
C'est léger en termes d'impression parce qu'on a tous eu peur. Maintenant, on ne peut pas juger quand on prend une décision. On peut pas juger sur des choses qui auraient pu arriver.
Oui, dans l'argumentaire, il y a un truc qui est effrayant, c'est qu'ils expliquent qu'il y a eu ça, notamment parce qu'il avait touché Hamilton et Alonso, qui entre guillemets jouaient le titre. Sous-entendu, ce qui sous-entend que voilà, ça aurait été une HRT et une Caterham. Ouais, il aurait pris 5 places.
Eh bien non, parce que mathématiquement parlant, Karti Kéyan peut encore être champion du monde année. Hein. Je suis désolé, monsieur.
C'est vrai, en plus, c'est ça le pire.
Il y a 200 points à prendre, il peut les prendre avec sa HRT. Si demain matin, toutes les voitures du plateau, elles sont éliminées,
oui, mais écoute, vu que la FIA a l'air de vouloir décider qui peut jouer le titre ou pas, hein, puisque visiblement, c'est ce qui transparaît dans le texte, ça peut marcher.
C'est ça, c'est ce que j'ai compris en lisant ça, c'est d'accord, en fait, il aurait mis sur la gueule, il aurait décapité Charles Pic, on lui aurait dit, ouais, c'est pas grave, écoute, tu prendras 10 places, ouais.
Mais voilà, enfin, moi, je suis pour ce genre de pénalité. Bon. Je l'ai demandé pour Hamilton l'an dernier, quoi. J'ai dit à Hamilton, à un moment donné, il faudra peut-être lui mettre une course pour qu'il puisse réfléchir. J'espère que Romain Grosjean va pouvoir profiter de l'occasion pour réfléchir. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une semaine, donc voilà, il va réfléchir.
Il va pouvoir faire sa E20 en papercraft.
Et après, il pourra la foutre dans une ferraille.
Ouais.
C'est une solution qui est très rare, hein, parce que beaucoup gens ont cherché les derniers cas d'un pilote suspendu une course. Ça date.
Moi, le dernier exemple qui m'est vraiment venu en tête, c'est l'exemple de Yuji Ide à qui on a retiré. Ouais, c'est Yuji Ide ou Sakon Yamamoto à qui on a retiré.
Yuji Ide, on lui a retiré la super licence.
Donc c'est vraiment le truc radical. Faut savoir que une suspension d'un Grand Prix, c'est prévu par code sportif de la FIA. Donc elle vient pas non plus de n'importe où, cette suspension. Là, le truc, c'est qu'elle vient de n'importe où historiquement, parce que à la limite, on peut partir. Je crois que Robert Kubica, quand il a son accident, c'est suite à une petite touchette avec une Toyota. On pourrait très bien dire, pilote Toyota, il est suspendu un Grand Prix. Il a failli provoquer un accident grave. Enfin, il a provoqué un accident grave.
Ah bah, Schumi, c'est limite, il aurait pas dû être radié à vie après ce qu'il a fait sur Barrichello.
Mais à un moment donné, je pense que c'est bien d'avoir ce genre de pénalité, mais comme le dit Alonso, faut les avoir un peu partout. Voilà, faut pas hésiter, faut que ça, voilà. On a tous des pénalités quand on fait des conneries dans la vie. Voilà, si on fait une grosse connerie, on fait de la prison. Voilà, et c'est normal. On est privé de nos droits, mais c'est normal parce qu'à un moment donné, il faut payer. Maintenant, c'est encore une fois, voilà, on a eu le débat pendant l'un des derniers matchs, c'est qu'il n'y a pas de système de pénalité. C'est encore une fois, c'est des pénalités qui sont un peu faites à n'importe comment. Là, les trois places de Maldonado hier, voilà,
Ils font preuve de clémence. Le lendemain, ils y vont à coups de truelle sur Grosjean. Enfin, voilà, c'est moi ce que je regrette, c'est surtout le manque d'homogénéité dans les sanctions. J'aimerais qu'aujourd'hui les pilotes, j'espère que pour les pilotes ça va aussi être une leçon, qu'ils se disent aujourd'hui on peut plus faire les cons, qu'ils vivent avec la peur de se dire parce que on l'oublie, mais pour Grosjean c'est un gros risque. Tout à l'heure on plaisantait sur D'Ambrosio, le fait que D'Ambrosio limite il gagne, mais on se rappellera quand même qu'il y a un mec qui s'appelle Bertrand Gachot qui a été en prison. Oui. Qui a raté un Grand Prix, Schumacher a pris son baquet, il l'a plus jamais revu. Hein. Ouais. Donc, il est revenu un peu plus tard, je crois. Mais on peut aussi se rappeler, par exemple, de Timo Glock, qui avait été malade, enfin soi-disant malade, et puis Kobayashi
s'était révélé.
A sorti une super course et ben voilà, finalement, ça a changé un peu la donne.
Justement, j'allais enchaîner sur ça. Est-ce que ça, en plus, c'est une pénalité qui est rare. Est-ce que ça va bon après on verra ce que fait D'Ambrosio dimanche, hein, mais si Grosjean revient, bon, qui finit la saison a priori, hein, on va dire dans une situation normale, est-ce que quand même ça va pas peser sur la suite de sa carrière par rapport à l'équipe, par rapport à l'image qu'il a dans le paddock?
Il a un contrat d'un an, il me semble.
Ouais.
Donc
Boullier a dit récemment qu'il a gardé les deux mêmes pilotes. Voilà, après, c'est fait partie du genre de entre guillemets faute professionnelle qui peut avoir des conséquences sur voilà, parce qu'ils ont pas signé de contrat, donc du coup Boullier il peut très bien dire oui j'ai dit ça, mais c'était avant qu'il se fasse exclure. Effectivement, il allait trop loin, c'est une faute grave. Ils ont viré des mecs pour moins de ça. Donc, oui. Mais après, voilà, je pense que c'est aussi, je pense qu'on s'alarme beaucoup, on s'excite beaucoup sur cette pénalité. Maintenant, je pense que si on la remet aussi un petit peu, à plat, bon, c'est une pénalité qui est spectaculaire, c'est une grosse pénalité. Maintenant, je pense que tout le monde dans le paddock a aussi conscience que Romain Grosjean n'est pas non plus un danger public, tu l'as très bien expliqué, Shinji, c'est pas, il y en a d'autres qui méritent moins leur place en Formule 1. Voilà, donc je pense que les gens vont pas le juger que sur ça. C'est sûr qu'on va le juger sur ça. Maintenant, les gens du paddock aujourd'hui, ils vont pas se fier qu'au dossier scolaire de Romain Grosjean, ils vont aussi se fier à ses résultats. Et bon, bah, les résultats, il les a, il est performant. Quand il y a une bonne voiture, il est là. Il a quand même pas mal concurrencé Kimi Räikkönen en début de saison. Voilà, il connaît une saison difficile. Voilà, ce que j'espère en tout cas, c'est que ça va avoir un impact positif sur lui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est plus que jamais, il a les cartes en main. Il faut qu'il revienne à Singapour. Ça va être difficile parce que c'est Singapour, mais il faut qu'il revienne avec Singapour, avec une nouvelle mentalité, en se disant bon, voilà, je me laisse pas abattre par ça, je continue. Voilà, qui change rien, si ce n'est que peut-être effectivement qu'il fasse plus attention et compagnie. Je pense qu'il va quand même être un petit peu éteint sur la fin de saison. Voilà, je crois moins en la victoire cette saison pour Grosjean. mais voilà, je pense quand même que le paddock est suffisamment intelligent pour le juger comme ça. Mais il faut pas qu'il recommence. Faut pas qu'il continue sur cette lancée-là. S'il continue sur cette lancée-là, c'est mort. Il a déjà eu une deuxième chance. Il a déjà fait un peu des conneries dans sa première partie. S'il recommence sa deuxième, le paddock va vite tourner la page. Il y en a d'autres qui tapent à la porte, qui sont plus fortunés et compagnie. Voilà.
D'ailleurs, mathématiquement, aujourd'hui, il a fait une saison complète. Il a fait 11 Grands Prix cette année, 9 dans sa première vie. Ça en fait 20, ça fait une saison.
Ouais.
Donc maintenant, ce n'est plus un rookie.
Après, tu sais, si on est philosophe, on peut se dire que il y a un type qui a été exclu a posteriori de tout le championnat 97 pour un geste.
Tout à fait, Thierry.
Ça l'a pas empêché de faire des grandes choses après. Pareil, il y a une équipe qui a été exclue du championnat en 2007, ça l'a pas empêché d'avoir un pilote titré l'année suivante.
Pour terminer sur la punition, je reviens là-dessus, je remartèle là-dessus, mais est-ce qu'aussi elle a pas été mise, pas de bol, c'est sur sa gueule que ça tombe, c'est sur sa tête que ça tombe, mais est-ce qu'elle a pas été mise, comme tu disais tout à l'heure, comme un gros avertissement à tout le monde, et pas que à Maldonado, en disant « maintenant vous allez tous vous calmer ».
Ouais. Peut-être,
oui. Parce que ils veulent pas justement, ils sont en train de se dire oh là attention, en F1 ils sont en train de devenir des fous furieux comme en GP2, sauf que là c'est pas les mêmes bécanes et on va se retrouver avec 3 morts dans une course, va falloir qu'on les calme tout de suite parce que sinon il va y avoir débordement quoi.
Mais je pense aussi que c'est effectivement ça, malheureusement ça tombe sur lui parce que les deux précédents gros cas, même on peut dire les trois précédents gros cas qu'on fait polémique, c'est Schumacher, on pouvait pas exclure Schumacher, c'était pas envisageable. C'est Hamilton, t'imagines exclure Lewis Hamilton d'un Grand Prix, la presse britannique va être furieuse. voilà.
Merde,
Et puis sans prendre la place à Maldonado, qui quand même est soutenu par Venezuela, qui est quand même un gros pourvoyeur pour pas mal, voilà, qui est quand même une grosse manne financière. Donc ce serait vraiment dommage de se séparer. Voilà, je pense que c'était le mec idéal sur lequel taper. Voilà, c'est tombé sur lui. Et je pense oui que oui, c'est peut-être un message aux autres. Ce qui est certain, c'est que ça, c'est pas une décision qui vient du collège des commissaires. Il n'y a pas d'investigation qui est ouverte pendant la course.
Non.
Il faut attendre deux heures et puis il y a rendez-vous à 17h et compagnie. Là, ça sent... Alors, peut-être que ça sent les discussions entre la FIA, Ferrari et McLaren, que McLaren sont montés au créneau en disant « C'est bon, ça suffit, on en a ras-le-bol. » Ou alors, tout simplement, c'est la FIA, effectivement, qui a voulu taper du poing sur la table en disant « Bon, maintenant, ça suffit, on se calme. » Espérant que ça marche, sans brider les pilotes,
ah ouais,
en espérant
ouais, ouais.
que ça les invite à un peu plus réfléchir. Mais il y a aussi une autre explication. Grosjean a sorti l'excuse du fait qu'il n'avait pas vu la voiture, là, notamment à cause des rétroviseurs et des renforts sur les côtés. C'est déjà quelque chose que disaient Maldonado et Lewis Hamilton pour se défendre. Il y a peut-être aussi une réflexion à mener de la part de la FIA sur ces organes de sécurité qui...
Oui.
Génère d'autres risques.
Bah, c'est vrai qu'à force de mettre des protections de plus en plus hautes autour des casques comme protection latérale.
C'est notamment ce qui fait que dans le débat des bulles, souvent tout le monde reparle, bah oui, mais attendez, les protos en endurance sont couverts et ils ont aussi ce même problème de la visibilité et des conséquences de
pas
avoir
avec
des accrochages. Quoi.
Enfin, normalement, elles s'envolent.
Non.
Et si je peux me permettre, la Lotus de Grosjean, elle l'aurait atomisé le truc en verre. Donc, parce que oui, vu le poids de la voiture. Je sais pas ce qu'il faut mettre comme verre, quoi. Tu vois, mais ça l'aurait atomisé. Donc, s'il avait dû être décapité, il aurait été décapité avec ou sans bulle.
Mais si on va passer au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et donc, Shinji, avant d'aborder le top 10, nous allons revenir sur les hommes qui ne sont pas dans le top 10. Et attention, il y a des surprises.
Ah, c'est oui. Bon.
En 22e position, nous avons Timo Glock, Pedro de la Rosa et Neerav Kartikeyan. Avec tout le contraire du nombre de morceaux de carbone qu'il y avait au virage, numéro 1. Puisqu'ils ont le chiffre 0.
Voilà. Oh, quelle déception pour Kartikeyan, merde. Zut.
C'est pas faute, hein. On a tous eu envie de lui mettre des points, mais pas ça. Nico Rosberg, 21e, 18 points. Pastor Maldonado, 20e, 24 points. Perez, 19e, 28 points. Petrov, 18e, 30 points. Kovalainen, 17e, avec 36 points. En 15e position, nous avons deux ex-aequo, Hamilton et Di Resta, 55 points. En 14e position, nous avons Charles Pic, 79 points. Puis, en 13e position, Bruno Senna, 94 points. En 12e position, là vous dites, c'est bizarre.
Oui.
Il en manque. En 12e position, avec 152 points. Nous avons Romain Grosjean.
Ah, donc ouais, ça, c'est un mystère. Hein. Parce que, franchement, Hamilton, bon, il a qu'une cinquantaine de points. Grosjean, quand même, 150 points. Hein.
Mais je pense que c'est tous les fans, tous les anti-Hamilton et anti-Alonso qui ont voté.
Oui, mais ce n'est pas lui qui a la plus grosse fanbase. Ça se voit.
Non. Non, effectivement, non. Il y en a un qui je dois dire que oui, effectivement, il y en a un qui a une fanbase.
Parce et on en, parle, on parle de Kartikeyan, hein, mais il y en a d'autres, bon. Voilà.
Je pense qu'il y a eu la correction d'injustice. Mais c'est étonnant parce qu'on corrige plus les injustices avec l'un qu'avec l'autre. Mais c'est pas grave. En 11e position, nous avons Kamui Kobayashi, 177 points. À noter que le vainqueur, dont nous tairons l'identité secrète pour le moment jusqu'au moment du dépouillement, vers la fin de la mission, dans à peu près 3h49, vous aurez Jenson Button.
Mais de toute façon, on se doute que c'est lui, alors.
Donc avec 1999 points.
Alors, à noter que, Elder, tu as donné un point à Pic. Alors, c'est vrai, franchement, on l'a vu. Et
ah oui.
On l'a même bien vu.
C'est terrible, on a fait 2 heures sur un mec qui a fait une course de 100 mètres. Et les deux autres Français font des très belles courses, des très beaux week-ends, et on va en parler 10 fois moins.
Eh bien, écoute, il m'a fait plaisir, en plus, le réalisateur... Pour une fois, c'est attardé sur la queue du peloton, très éloigné la queue du peloton d'ailleurs. Et ça fait plaisir de voir deux machines, je vais pas dire des bolides, deux machines se battre en duel, tu vois. J'avais l'impression de revivre une course de deux chevaux quand j'avais la mienne, et j'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a fait super plaisir. J'ai crié, je pense que mes voisins ils se sont demandé ce qui se passait.
Sinon, vous avez donné des points à Bruno Senna, Dino t'en a donné 2, Elder t'en a donné 8.
Et en fait, je pense que j'ai fait une petite erreur entre Bruno Senna et un autre pilote du nom de...
J'aime bien la manière dont Elder le dit. On avait l'impression qu'il était sur le Tour de France. Oui, et bien effectivement, je crois que j'ai fait une toute petite erreur sur le classement.
Oui, et qui n'aura pas de grosses conséquences, j'espère.
Non, conséquences, non, parce qu'il n'est pas dans le top 10, donc ça va. Non, moi j'ai bien aimé sa course. Donc encore une fois, il a fait une course honorable.
C'est son circuit préféré.
mais voilà, moi je trouve qu'il a fait une bonne course, un peu gâchée par la stratégie. Donc du coup, un peu aussi valorisé par la stratégie. Voilà, il a fini un peu en difficulté. Et en plus, il a une crevaison lente qui le relègue en 12e position. Mais c'est pas si mal que ça.
Sinon, on a tous les trois donné des points à Kobayashi. Alors moi, bon, j'en ai mis...
C'est pas suffisant.
J'en ai mis que 2. Bon. Mais vous en avez mis 12, chacun.
Eh ouais.
Je pense pour la même raison.
Pour ses qualifs incroyables, il a été superbe. Et parce qu'il a failli se prendre 2 roues sur la gueule, quoi. Et qu'il a continué
la course. C'est incroyable. C'est-à-dire que le mec se prend 3 bagnoles sur la gueule, les voitures se dégagent, tel Moïse écartant l'eau de la mer Rouge. Takamori Kobayashi, hop. Il renclenche la vitesse et il s'en va.
Il marche sur un bout de...
C'est un japonais, les gars.
Il va se planter. C'est un samouraï, ce mec.
C'est un japonais, les gars. Il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki, il y a eu Fukushima. Alors, gros Jean.
T'imagines, sa pauvre épouse, elle vit constamment dans le danger, quoi.
Oui. Elle doit toujours changer les fenêtres de chez eux. Hein. Parce que, évidemment, ils rentrent jamais par la porte. Hein. Ils se jettent par les fenêtres. Salut.
C'est le petit-fils de Belmondo. Hein.
Tac, tac, boum, boum. C'est moi, un gros genre.
Tac, tac, boum, boum. C'est ce qu'il a dit au premier virage.
Ce qu'il a dit. En plus... Non, mais c'est vrai, en plus, quand on l'a interviewé, il a dit qu'il avait entendu un boum.
Oui.
Ouais.
Mon passage préféré, c'est quand il dit dans ces cas-là, tu fermes les yeux, tu fais ta prière. Tu lâches tout et t'attends que ça se termine. Ouais, bon, t'as pas tort, mais si au départ t'avais évité que ça se produise, peut-être.
Non, mais sincèrement, moi quand j'ai vu l'accident, au début j'ai fait le super carton. C'est, voilà, c'est avant, après c'est le moment où je me dis oh, merde, putain, on est passé quand même chaud. C'est je sais plus quelle caméra, où c'est la caméra d'Hamilton, je crois, où on voit vraiment la Lotus qui passe sur la Ferrari. C'est vraiment cette caméra là qui m'impressionne pas trop celle de vue de la Ferrari. Non. Mais quand même, l'un des premiers plans qu'on voit en plus juste après l'accident dans le direct, c'est le plan de Kobayashi qui repart. Voilà, je me dis l'accident il est pas grave, le mec il repart. Mais le mec se prend 3 bagnoles sur le coin de la gueule.
Sa voiture est cassée.
Il a plus de voiture. Il regarde à droite, à gauche et il y va.
Mais sa voiture, elle était c'était un char, quoi, parce que il y a la McLaren qui lui passe dessus clairement. La Ferrari elle roule sur sa roue lui il continue non, pas besoin de changer le museau, c'est bon les gars, on va y aller, hein. Oh regarde, il y a un bout d'aileron qui est planté dans ma roue, c'est formidable. Et lui il s'en fout, il continue.
Ah, c'est quoi ce que j'ai dans ma jambe? Non mais voilà, moi sincèrement j'ai été admiratif. En même temps, je suis très inquiet aussi, parce que je pense qu'une question aurait soulevé auprès de Sauber, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé en piste. Ouais. Parce que c'était quand même dangereux. Lui-même le dit, il n'avait pas du tout conscience des dégâts sur sa voiture. Il savait juste qu'il y avait une grosse marque de pneus sur son cockpit et qu'il l'a vu toute la course. Donc là, il se dit effectivement la roue est passée pas loin. Donc faut quand même le mec pendant toute la course, il a la marque de pneus qui lui rappelle qu'il est passé à 1 mètre de la mort. Voilà, le mec il fait quand même la course avec sur Spa, faut quand même une sacrée paire de baloches. Et c'est vrai que du coup il le laisse repartir. Lui il dit dans la course la voiture était pas bonne parce que elle était endommagée et compagnie. Et il dit après j'ai été au parc fermé. Et là j'ai vu qu'il y avait des trous dans le ponton, qu'il y avait pas mal de pièces qui manquaient. Je pense que là à un moment donné il fait partie de ce genre de mec qui s'est dit je crois que je viens de toucher du bois de façon incroyable.
C'est pas, parce qu'il, c'est pas voilà. Tu vois qu'il y a là où il y a leurs jambes qui se fixent, enfin qui se fixent, là où ils enfilent leurs jambes dans le cockpit, c'est sur la Ferrari ouais, surtout.
C'est une structure en mousse ou en...
D'accord.
Par contre, ça se trouve, vu comment ils ont dégradé la bagnole, ça se trouve, ils pouvaient toucher le fond plat. Où il y a une planche en bois, il faut le dire. Donc, mais c'est incroyable. Enfin, moi, sa course, sincèrement, a passé inaperçu. Mais le mec, il a une voiture estropiée. Il a été pris dans un énorme carambolage. Il repart zen, tranquille. Mais sincèrement, il repart. C'est le gamin qui est. Moi, je vois l'image du gamin qui a un passage piéton. Voilà. Il y a un gros carambolage entre lui. Le feu passe au vert. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Et il traverse. Et voilà. C'est l'image de Kobayashi, quoi. Je me dis, waouh. J'étais admiratif de ce bonhomme.
Quand je l'ai vu repartir, je me suis dit, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un samouraï, quoi.
C'est un malade, ouais.
C'est un psychopathe, le mec, quoi. C'est clair que.
Allez, à la 10e place, il a marqué 191 points. C'est son premier point cette année. Je me demande si c'est pas son premier point tout court.
Putain, il en a moins que Cartiquillant.
Oui. C'est Ricciardo.
Olé.
Donc Cartiquillant ne sera pas dernier au classement, à moins que Ricciardo fasse une meilleure course.
Oui, je lui ai donné 6 points, Dino tu lui en as donné 4, Elder tu lui en as donné 2.
Ouais, peut-être parce que j'étais plus concentré sur Vergne à ce moment-là en fait.
Apparemment tu n'as pas été le seul. Alors, fondamentalement, ils font quasiment de la copie carbone dans leur course.
Oui.
Et pourtant, assez bizarrement, voilà, il y a un pilote, tout le monde l'a vu, et un autre, voilà.
Ouais. Mais c'était pas un top 10 facile à faire finalement. Je pensais qu'il allait être tout ballot à faire et il a été un peu plus.
Il s'est passé beaucoup de choses donc.
Ouais.
Puis il y avait des pilotes à remettre dedans, tu vois.
Ah bah oui.
Ah, et les pilotes qui étaient oubliés. J'ai le pilote disparu.
Puisque, à la 9e place, il a marqué 222 points.
C'est un scandale.
Et alors, là encore, j'ai envie de dire, le ratio points-distance parcourue est plutôt pas mal. Hein. Puisque Alonso a marqué 2 points.
Ah, c'est un scandale.
C'est un.
Je veux dire, il serait parti en pole, tu vois. À la limite, on dirait, ouais, bon, il y a les points. Mais même pas, il fait une pole moyenne.
C'est parce qu'il a une Ferrari en papier mâché.
Non, après, je pense que beaucoup de gens.
C'est bien, parce que ça veut dire au moins que votre vie vaut 2 points dans le classement du SAV.
Non, mais c'est vrai que ce qu'il faut signaler en plus, c'est que, il a vraiment été très vite. C'est-à-dire que là, il est 9e, mais si on regardait, on avait pris le classement après 2h et demie de course, enfin, vers 18h, il était facilement 4 ou 5e. Voilà. Parce qu'il a démarré très fort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dès le début, sentiment d'injustice, ils ont voulu rendre justice à Alonso, ils l'ont mis premier, deuxième, etc. Et en fait, on voit au final que, ça se tasse, en fait, le phénomène, se tasse et que les autres marquent plus de points. Parce que, là, encore une fois, je pense que les gens ont un peu fait le classement à froid.
Oui.
Et on peut plus réfléchir aussi à leur classement. Donc c'est, mais non.
Comme quoi, tu vois, des trois, finalement, c'est Hamilton, hein, qui rapporte le moins de points. Pour une course à peu près aussi longue.
Oui, mais c'est surtout ça qui est incroyable, quoi. C'est que l'injustice, elle est autant pour Alonso que voilà. C'est...
Pourquoi, vous savez qu'à limite, pourquoi donner 200 points à Alonso et que 50 à Hamilton?
Parce que la distance entre la roue de Grosjean et la tête du pilote était plus faible chez Alonso. Voilà, je pense. Non, mais sincèrement, je pense que il y a certainement l'aspect le fait qu'Alonso, Ferrari, compagnie.
Oui.
Et je pense surtout il y a la frayeur que tout le monde a eu pour Alonso qui fait que Alonso se retrouve si haut classé. Le mec, il est 9e, mais il est haut classé.
Oui.
Mais j'avoue que.
Et donc Fernando, tu as toujours des points au SAV.
Oui.
Voilà, va-t-il battre le record de Schumacher?
C'était écrit qu'il pouvait pas le battre.
Allez, voilà. À la 8e place, sinon ça démarre vite, c'est bien. Mark Webber, 280 points. Alors moi, je lui ai mis un point au classement.
Ça va continuer vite, c'est bien, je dis.
Bon.
Je m'étendrai sur lequel Mark Webber en parlant de Sébastien Vettel.
Ah, si tu veux,
voilà,
si tu veux.
C'est ça, c'est ce que j'allais
dire. Allez, je pense qu'il y aura plus de choses à dire avec Felipe Massa, 7e, 444 points. Je lui ai donné 10 points. Dino, tu lui as donné 8 points. Elder, tu lui as donné 6 points.
T'es optimiste, hein, c'est dire. Il y aura plus de choses
ouais,
à dire.
Ouais, je sais, j'ai hésité. Est-ce que je le mets devant ou derrière les Toro Rosso
Ouais, j'ai aussi hésité. Ouais.
Il est pas très loin de Raikkonen.
Il est, ouais, il fait, alors, c'est ça, il fait une bonne course. Alors, tout de suite, ce qui est terrible avec Massa, c'est qu'on dit, ouais, mais il a profité du fait que il y a eu le, ouais, mais il fait quand même.
Oui, soyons clairs.
Ouais. Oui, non, mais il faut dire ça pour quasiment tout le monde.
Un grand prix normal, Massa, il fait 5, Alonso, il gagne, quoi.
Voilà.
Non, Alonso, il est 2 places devant le vainqueur, tu vois.
Non, une bonne course. Comme tu l'as dit, il a été plus rapide qu'Alonso.
Ouais. Ouais, il a fait, comment dire, il est à sa place habituelle, hein, c'est-à-dire 9e, puisqu'il y en a eu 4 devant qui auraient été sûrement devant lui s'il n'y avait pas eu un problème. Et donc il aurait fini 9e, quoi, c'est-à-dire une place assez habituelle, hein, voire oui, exceptionnelle parfois.
Mais c'est vrai qu'on sent le fait de ne pas avoir Alonso, on l'a senti quand même un peu plus incisif, notamment dans ses dépassements et compagnie. On a senti que là, voilà, tout d'un coup, c'est ce qui me fait vraiment donner envie de le voir l'année prochaine dans une écurie où il pourrait être le leader, c'est de me dire, là je pense qu'aujourd'hui il s'exprime pas en partie parce que il y a déjà l'équipe, elle a déjà son leader et compagnie, et là on voit quand on a besoin de lui, bah on retrouve la qualité qui était la sienne, notamment chez Ferrari.
Donc pour toi Massa chez Ferrari, finalement c'est sans espoir, il y a aucune chance, faut qu'il parte.
Bah oui, c'est sans espoir.
Alors
sincèrement, il était bon face à Raikkonen parce que face à Raikkonen il avait de la place,
oui,
et que il était le leader de l'équipe. Quand Alonso est arrivé, il a fallu quelques courses à peine pour qu'Alonso prenne la main sur l'équipe, et il est plus chouchou aujourd'hui. Et je pense que Massa, c'est un pilote qui a besoin d'être en confiance, d'être le chouchou, il a besoin de se sentir aimé par son équipe et compagnie. C'est le Cristiano Ronaldo de la F1.
Ah oui, c'est vrai.
Il a besoin d'amour.
Alors, est-ce que tu le verrais pas chez Williams ?
À Williams, je le verrais bien.
Tu vois, c'est pas une écurie de queue de peloton. Bon, c'est pas non. Ils peuvent prétendre à des victoires si leur voiture l'année prochaine est aussi performante. Ce serait un bon compromis pour Massa comme pré-retraite.
Bah un Williams ou un Sauber, ça pourrait être bien.
Ouais, Sauber aussi, effectivement, ouais.
J'ai un peu peur que ce soit un Caterham, mais bon.
Oui, je sais.
Non, soyons honnêtes, oui. Sauber, apparemment, ils ont les yeux ailleurs. Williams, ils ont dit, on a 3 pilotes pour debaquer, c'est compliqué. Bon, à moins qu'ils ne pensaient pas peut-être à Senna, Maldonado et Bottas, peut-être qu'il y avait un invité surprise, mais je pense que voilà, après Caterham, pourquoi pas.
Allez, dans ce cas, c'est bien, c'est vite, c'est rapide, c'est 6e place, 447 points, ça s'est joué qu'à 3 points cette 6e place, ouais. C'est Jean-Éric Vergne. Alors c'est bien simple, vous prenez notre place qu'on a mis pour Ricardo, et juste au-dessus, c'est Vergne, c'est-à-dire que moi je lui ai donné 8, Dino tu lui as donné 6, LDR tu lui as donné 4. À chaque fois on a fait des tirs groupés avec Vergne devant.
Ça va. On a été raisonnable, nous.
Oui.
Je lui ai pas donné plus de points, je m'étonne moi-même.
C'est pas lui que tu voulais mettre à la place de Senna?
Senna, ouais.
dans l'ordre du classement, tu veux dire?
Oui.
Peut-être, parce que moi, il m'a procuré un instant de plaisir éphémère, je dirais.
Vas-y, dis-le.
Oui, parce que vous faites des trucs un peu cool comme sur Twitter pendant les courses. Hein.
Ah, écoute, je pense qu'on est au moins 2 ici à avoir eu des orgasmes pendant ce Grand Prix. C'est parmi les premières fois de la saison où en une seule course, je m'entends crier autant devant ma télé. Hein. Mais pas pour protester, bon, à part le départ, mais parce que c'est beau, quoi. Et il me semble que c'est sur Rosberg. Il ouais. Fait « Salut, ça va ? Allez, au revoir hein. !»
Puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'il passe avec autorité, quoi. C'est, voilà, c'est le mec qui passe dans un trou de souris. Tu vois que Rosberg, il est aussi un peu en délicatesse avec ses pneus et tout. Le mec, qui passe. Voilà, il est à côté. Il voit que Rosberg insiste. Petit coup de volant. Et Rosberg comprend tout de suite. Je vais me laisser faire. Je me mets sur le côté. C'est bon. Et je laisse passer les autres, quoi.
Totalement à la dérive, quoi. Donc, superbe Jev. J'ai eu grand plaisir à le voir dans cette position. Ça me fait plaisir.
On notera qu'il ne dépasse pas souvent, il n'est pas souvent devant son coéquipier cette saison. Mais à chaque fois que ça a compté, il était devant.
Ouais, sauf en Australie. Hein.
Mais en Australie, il est devant à 100 mètres.
Oui, ouais. Le long, il n'y a qu'à 100 mètres de l'arrivée, effectivement. Ouais, mais c'est l'arrivée qui compte, c'est pas ce qu'il y a avant.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on constate, voilà, c'est quelque chose qui est, quand ça compte, quand il y a des gros points à marquer, quand les opportunités sont là, elles étaient là, bah, il est devant.
Ouais.
Parce qu'il a un bon dieu avec lui, ou je sais pas quoi, une bonne étoile, ou qu'il dit, ah, là, c'est pas, va peut-être y avoir un carton au début, j'ai pas envie pour qu'il se qualifie bien, je vais lui mettre une bonne voiture, une bonne stratégie, compagnie.
Donc ouais, voilà, ouais, je suis étonné de pas lui avoir mis plus. Donc parce que vraiment, j'ai très très, il était pas, il a pas joué à l'homme invisible, quoi.
Non.
Allez, à la cinquième place, il a marqué 457 points. Donc là encore, plutôt serré. Alors là, c'est très disparate, parce que Dino lui a donné un point. Moi, j'en ai donné 4. Ouais, je vais le mettre derrière les taureaux. Et Elder lui a donné 8, le 10. C'est Papy.
Ah, il nous a quand même gratifié de d'un magnifique duel avec Vettel. Ouais. Je reste devant, mais je vais au stand.
En plus, si je me trompe pas, c'est pas la première fois qu'il fait ce petit coup-là.
Non, moi, j'ai c'est effectivement, ça me parle aussi, oui, oui, oui. Mm.
Et c'est les deux qui sont magnifiques dedans. Enfin, voilà, c'est Schumacher qui lâche rien. D'ailleurs, Vettel, il l'a dit, quoi. Il est encore de Borès, quand même, et tout. Et voilà. Et puis, Schumacher qui fait la queue de poisson, puis Vettel qui glisse. Mais toutes les images sont derrière. Tu fais ça, tu fais un super ralenti. Ouais. Tout est magnifique,
c'est,
quoi.
C'est...
Tu prends ton pied sur tout le freinage, surtout. Mm. C'est juste génial.
Ah ouais.
D'ailleurs,
ouais.
Ça m'a fait peur quand j'ai vu, oui, machin, en observation, tu sais, tu dis, non, putain, laissez-les faire des trucs comme ça.
Ah non, c'est, ouais, j'aurais été scandalisé qu'il y ait eu une sanction pour ça, quoi, parce que c'était, c'est les deux passes d'armes qu'ils ont fait à la chicane, elles étaient splendides, quoi, c'est beau, voilà, c'est ça, la F1, c'est pas que de l'électronique, c'est pas que des voitures qui vont vite parce que l'autre il a trouvé une astuce, machin, non, c'est des mecs et malgré toutes les critiques, merci à Pirelli, et les mecs ils se mettent dessus, quoi. Ils ont pas le choix.
Et surtout, ce que j'aime bien dans ces dépassements-là, ce qui fait que moi j'ai pris mon pied notamment devant les dépassements de Vettel, c'est que ça se passe à l'arrêt de bus sans le DRS.
Ouais.
Oui.
Voilà. Il y a la longue ligne droite, il y a l'aspiration. C'est la preuve que si tu réfléchis bien, tu fais bien tes circuits, tout en ayant des circuits avec qui proposent du défi, t'as quand même des possibilités de dépassement. Et Spa est un circuit qui en offre naturellement. Enfin, je lisais sur un blog anglais, le mec il disait mais retirez-moi ce DRS, quoi. C'est ailleurs vous le mettez, mais pas à Spa, quoi. Spa, ça doit se faire sans DRS, enfin des dépassements au combe, à la source, dans le raidillon maintenant, il y en a aussi. Des dépassements à l'arrêt de bus, il y en a partout, quoi, des dépassements. Donc.
On va. Oh, j'avais coupé mon micro, j'ai fait une autre Steph Core. Je suis super. Donc j'ai philosophé tout seul, ça m'a fait. Je disais, mais je pense qu'on va en reparler du raidillon.
Oui.
Il y a eu 2011 et maintenant il y a 2012, quoi.
Oui.
Même si je préfère 2011. J'y reviendrai.
Ah. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu plus bas, mais bon.
Non, c'est pas que c'est plus bas, c'est que Schumacher résiste moins.
Ah oui.
Non, mais c'est vrai que par contre, sur Schumi, c'est dommage sa fin de course, quoi. Que la stratégie. Ouais. Il a perdu je sais plus combien de places sur la fin, quoi. J'ai même été surpris de le voir dans le top 10, quoi.
Ouais. C'est ouais, mais j'étais heureux quand je l'ai vu en P2 à un moment donné pendant quelques tours. J'ai trouvé ça magnifique, mais non, il
finit
7e, ouais, et ce fut bref, effectivement. Il a fini 7e de mémoire, donc oui, dans le top 10, hein. Mais une jolie course malgré tout, du Schumacher à Spa, quoi.
Il est toujours bon, hein, Spa.
Oui.
Ouais.
C'est pour ça qu'il a été fait citoyen d'honneur.
Ouais. Oh, putain, citoyen d'honneur de la ville de Spa.
Ça aurait pu être l'info que j'en avais rien à foutre, tiens, soit dit en passant.
Oui, c'est vrai. On aurait confirmé, je pense.
Allez, à la quatrième place, on retrouve une Force India, puisque c'est Nico Hülkenberg. Il a marqué 600 points. Alors moi, je lui ai donné 12 points. Dino, tu lui as donné 15 points. Et Elder, il n'y a pas de points.
Non. J'arrive pas à... J'ai un blocage avec les Force India. Je sais pas. Je sais...
Ah oui, t'as un blocage.
C'est, ah bah oui, c'est...
Là, tu leur as fait une gros jambe, tu les as éliminés dès le départ.
Ils font des trucs, quoi.
C'est... Les quatrièmes, Hulk, tu vois, donc, j'aurais dû. Mais je sais pas, je l'ai pas vu. Pourtant, on a regardé la même course, hein, mais, je sais pas, je sais pas pourquoi.
La Rosberg, c'est ça le pire, c'est qu'il est bien placé, mais finalement dans la course, on l'a pas vraiment senti inquiété, ni vraiment menaçant sur les mecs devant. Il revient un peu sur Raikkonen vers la fin, mais voilà, c'est le mec qui s'est retrouvé là très vite, et très vite il avait fini sa course.
peut-être oui, moi c'est pour ça que je leur donne pas de points en général aux pilotes Force India, parce que oui, je les trouve ils pilotent sûrement très très bien, mais c'est vrai que je les accroche pas, je les trouve transparents, quoi. Je suis désolé, c'est pour les fans
Ah mais c'est pas faux.
Mais voilà, c'est.
Et c'est aussi ce qui fait leur qualité, c'est que justement, ils font pas parler d'eux, ils font quand même des résultats. C'est pas des incisifs, mais c'est pour ça peut-être que leur profil aussi plaît si bien à pas mal d'équipes, quoi.
Ouais, mais c'est.
Après moi, Hülkenberg, c'est ses dents, j'ai dit pas rien. Voilà.
Je vois pas ce que t'as avec ses dents, enfin.
C'est ses dents, tu dis. Il a des dents. T'as l'impression qu'il a une seule dent qui fait tout le temps la bouche. C'est juste.
Je ne pourrais plus jamais le regarder de la même façon. C'est pas sympa.
Tu dis, moi j'ai un problème avec les cheveux de pique, mais bon. C'est...
Voilà, mais moi c'est les dents.
Là, moi j'ai un problème avec.
Tu vois, encore pique peut se couper les cheveux, mais il peut pas se couper les dents, Hülkenberg. C'est dans l'architecture même de sa bouche qu'il y a un truc.
Ah tiens, je vais en remettre une couche. Moi, c'est le sourire de Grosjean que je supporte plus.
Et encore, ça s'est amélioré. Non, mais c'est vrai, il y a... Lors de son premier passage, on a l'impression qu'il avait 12 ans.
Oui.
Allez, on va passer au podium. Et en troisième place.
Espérons qu'il n'écoute pas l'émission.
Il a marqué 772 points. Je lui ai donné 15 points, comme Elder. Dino, tu lui as donné 10 points. Et il a fait un beau dépassement, le Rédillon, même si c'est un tout petit peu avant quand même. Hein. C'est sur le bas du Rédillon, alors que Weber, c'était quand même un peu plus haut. Ah, tu sais, Kimi Räikkönen.
Ah, écoute, magnifique. Magnifique, le Rédillon. Un tout petit peu avant le Rédillon, d'accord. Mais magnifique quand même, parce que il y en a pas beaucoup des pilotes sur le plateau qui oseraient se permettre ça.
Oui.
Et encore une fois, quand tu regardes les pilotes que c'est, voilà, c'est juste du respect, quoi. Mmh. C'est l'an dernier, c'est ce que disaient Alonso et Weber, c'est on fait pas ça avec n'importe qui. Là, c'est Schumacher et Räikkönen. Pourtant, Schumacher, c'est pas forcément le mec. Tu te dis, oh, je vais aller au pied du Rallye Lyon et je vais doubler là. Schumacher, t'as toujours quand même un petit peu une phase de recul. Mais voilà, il a quand même fait. Schumacher, il a fait son boulot, peut-être un petit peu trop. Moi, je trouve que c'est justement, il a manqué un peu d'opposition. Là où l'an dernier, c'est vrai que ça c'est quand même, ça a été plus loin parce qu'Alonso a un peu plus résisté. Donc du coup, voilà. Mais là, c'est encore une fois, c'est très beau. Enfin, le Rédillon à deux de front, juste. Oui. C'est même pas dépassé, quoi. C'est à deux de front, déjà, le Rédillon. Dans la cuvette, c'est juste incroyable.
D'ailleurs, ça me fait dire, cette action de Weber et Alonso, c'est, si c'était accroché, il terminait zéro, quoi. C'est ce qui s'est passé hier, Oui. Si c'était passé, ça aurait été magnifique.
Après, pour revenir sur Kimi, un petit peu frustré quand même sur son début de course. Il a perdu beaucoup de temps quand même au début. Hein.
Ouais, moi, un peu frustré sur le début, sur le milieu, et un peu frustré quand même aussi.
Et toujours frustré sur le podium.
Mais après, quand il a changé les pneus, il allait beaucoup plus vite. C'est pour ça que moi, je mettrais surtout au début.
Mais ça, c'est un truc de la Lotus. Hein. La Lotus, elle a l'air un peu poussive en début de course. Par contre, en fin de course, elle vole. Et moi, c'est justement là où il m'a déçu. Donc, du coup, les Lotus, je les juge un peu sur ça. Quoique, non, c'est ce week-end, elles ont un peu volé en début de course aussi, les Lotus. Désolé, Romain. Non, mais sincèrement, Romain. Si tu couches cette émission. Voilà.
Ça ne durera que 2 heures.
Mais voilà, moi, c'est surtout sur la fin. Moi, je trouve qu'il m'a déçu. Vraiment, sur la fin, je les redoute toujours, les Lotus. Et là, en fait, il y a Massa et Hülkenberg qui reviennent sur lui. Alors, à un moment donné, je regarde la télé, il y a Vettel derrière Räikkönen, et je reviens, je vois Vettel qui était
devant.
Bien devant, quoi. Merde, c'est passé. Alors, est-ce qu'ils se sont dépassés sur la piste, ou... Non, c'est au stand?
Non, j'ai pas enfin, moi, j'ai pas vu.
Tiens, ça m'a même pas marqué.
Hein. Ouais, voilà, ça vous a pas fait ce coup-là? À un moment donné, voilà, vous êtes... Je me suis dit, bah tiens, Vettel, il est devant. Je savais même pas comment il avait fait.
Ouais, mais Vettel, c'était une tornade.
Ah ouais.
Kimi, il est quand même le meilleur pilote en ayant fait 2 arrêts.
Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il a fait 2 arrêts, je suis con. Pour ça que Vettel est devant.
Ah bah oui. Donc oui, c'est, indirectement, c'est au stand.
Parce que c'est là, genre, je sais pas si ça vous l'a fait, moi ça a été l'un des impacts de la course, c'est que en fait de l'accident, je suis sorti de la course à cause de l'accident. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à suivre les stratégies, à m'intéresser au reste de la course, en fait. Le reste de la course était très bon, mais j'étais relativement passif.
Oui.
J'analysais plus rien parce que j'étais un peu, peut-être un peu groggy après le début de course.
Un peu choqué quand même parce que c'est vrai que, ouais.
Moi, ça m'a titillé de pas voir Alonso bouger sur le coup, en fait. De voir Hamilton et Grosjean sortir vite et Alonso qui reste dans la voiture, qui bouge pas. Je me suis dit, putain.
Le haut qui bouge, mais pas le bas.
Le médecin qui est dessus, comme un fou, tu fais, waouh, il nous a fait une Schumacher Silverstone 99.
Ouais. C'était Hamilton au Nürburgring quand il bougeait les jambes. Et là, c'est vrai que tu vois Alonso qui bouge et tu le vois pas sortir. Je dis merde, le mec il bouge donc il est conscient. C'est juste qu'il peut pas sortir. S'il peut pas sortir, c'est qu'il a les jambes bloquées. Tu te rappelles quand même que la Lotus lui passait dessus. Tu dis merde, putain, ça se trouve il y a un bras de suspension qui a traversé la coque ou un truc dans le genre. Non. Et en fait non, c'est apparemment l'extincteur de la voiture qui est embarqué qui a fait son travail. Sauf que du coup, il pouvait plus sortir Fernando.
Ouais. Bon, bah, écoute, plus de peur que de mal.
D'ailleurs, il a dit après qu'il a essayé de rassurer l'équipe à la radio, sauf qu'il y avait plus de communication, il y avait plus rien.
Il y avait plus d'antenne.
Je voulais leur dire les gars, je vais bien, mais les mecs sur Ferrari ils savaient pas. Donc ils étaient un peu comme nous en se disant "Oh non, non non, non non." On a eu Massa, on va pas avoir Fernando.
Allez, on va passer à la deuxième place et, oh surprise, c'est Sébastien Vettel.
Ça a été mon grand dilemme.
Pas moi.
Alors en tout, il a marqué 992 points et on l'a tous les trois mis premier.
Ah putain, ça me rassure.
Ah oui, moi j'ai pas hésité. Hein. Autant Button a gagné le Grand Prix, on lui enlèvera pas, il est bon, il a été fabuleux, il a survolé la course, mais Vettel, moi, il m'a régalé. Quoi.
Très belle course. Hein.
C'est peut-être pour moi la meilleure course de Vettel.
Et remonter, pas qu'à la stratégie. Il a remonté en doublant.
On pourrait faire un peu le parallèle. Je pense que le parallèle avec Hülkenberg est intéressant. Ils partent l'un derrière l'autre, enfin à une ou deux places de différence. Bon, Hülkenberg profite vraiment, lui, de l'accident du début. Vettel, pas du tout. Hein, parce que Vettel, il doit être 9 ou 10e. Au bout du premier tour ou un truc dans le genre, alors que Hülkenberg il est déjà 5 ou 6. Donc voilà, il y en a vraiment un qui a profité, pas l'autre. Et il se fait des dépassements c'est des dépassements d'école, c'est croiser, décroiser, c'est des trucs tout simples, mais c'est bien exécuté avec un brin d'agressivité et compagnie. Moi je trouve sincèrement que c'est la course référence pour un pilote dont on dit souvent que il est bon que quand il est devant. Je suis le premier à reconnaître qu'effectivement quand il est devant il est très, très dur à battre, il est bon que quand il a la bonne voiture et compagnie. Là il a éclipsé totalement Weber, pour ça que j'ai pas mis d'ailleurs. Il a tout fait de grande classe, il a montré que c'était un champion du monde, qu'il n'avait pas volé sa place, qu'il n'avait peut-être pas la meilleure voiture cette année, mais qu'il était aussi capable comme des Alonso, comme des Hamilton de faire bien quoi. Tout simplement de se sublimer, et là il s'est sublimé.
Ouais.
C'est très rare quand je mets pas le vainqueur vainqueur du top 10. Là sincèrement Button l'aurait mérité parce qu'il maîtrise magnifiquement son week-end, mais il y a un mec derrière qui fait une course incroyable quoi.
Il a fait le spectacle. Il a fait le spectacle.
Ouais, il y a de tout, puis il arrive à faire ça, il arrive à être agressif comme il a été agressif tout en ne faisant qu'un relais et sans perdre de temps sur la fin quoi. Enfin, il est sur la même stratégie que Button qui lui est devant à juste à gérer, pourtant le mec derrière, il doit quand même faire des dépassements et compagnie. Passer dans des trajectoires extérieures et compagnie, ça pourrit un peu ses pneus. Je trouve que sa course, elle est extraordinaire, quoi. C'est vraiment j'espère que ça sera une course référence pour lui.
En même temps, c'est pas très compliqué pour que ça devienne une course référence parce que les précédentes, il était tout le temps devant.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi qu'on le voit dans cette position-là il avait pas la meilleure voiture du plateau ce week-end. Certes, il a bénéficié un peu des circonstances parce qu'il avait pas ses rivaux. C'est sûr que c'est plus facile de dépasser certains pilotes que de dépasser Alonso ou Hamilton. Il y aurait peut-être eu un autre un peu plus, quoi. Voilà. Surtout Hamilton et, Alonso aussi. Mais, quand même, il faut être présent, quoi. Il l'a été, quoi.
Moi je trouve que c'est vraiment lui le gros vainqueur du week-end.
Oui c'est le vainqueur moral de la course, tu peux le dire.
Il a fait la meilleure course.
C'est lui qui a pris le plus de points à Alonso, hein. C'est lui qui son épingle du jeu.
C'est le grand vainqueur au niveau du classement.
Ah ouais.
Allez, maintenant Red Bull peut le nommer numéro 1.
Oui, c'est vrai.
Genre Red Bull va attendre ça, quoi.
C'est vrai.
C'est toujours l'argument qui me fait rire. Ah non, parce que dès que Vettel va repasser devant Weber, c'est fini. Hein. Red Bull va choisir... Non, mais si Red Bull voulait vraiment choisir Vettel numéro 1, vous savez, il est deux fois champion du monde, l'autre il a jamais été. À un moment donné, le calcul, il est simple. Hein. C'est... Moi, je mets numéro 1 depuis 3 ans, quoi. Donc, le numéro 1, il l'a, quoi. C'est... Il a même pas besoin de le demander. C'est...
Alors, pour revenir sur Weber, je sais pas, je crois que c'est en 2010... Il avait fini la saison avec un problème à l'épaule suite à sa petite envolée. Hein.
Et il avait omis de dire.
Voilà. Ouais. Et bon, ça s'est vu dans ses performances. Ça a chuté d'un coup. Ses performances ont chuté. Et moi, ce que j'espère, c'est que du fond du cœur, que Alonso nous fasse pas le même coup, quoi, parce qu'il y a pratiquement la moitié de la saison à faire. Ce serait dommage de le voir s'effondrer pour un problème musculaire, parce que elle s'envole, hein. C'est pas des sièges en cuir, en mousse, hein. C'est un bac, c'est riche.
Il a dit qu'il avait mal au dos, il avait des petites douleurs, des contusions.
Il a mis sur Twitter tout à l'heure qu'il avait aucune séquelle et qu'il était à 200%, mais c'est de la com, ça reste de la com. Et, oui. Et on disait tout à l'heure qu'il était joueur de poker. Et voilà, j'ai tout mon souhait pour que la fin de saison continue à être aussi palpitante de ce côté-là. C'est qu'il nous cache pas un problème de santé suite à cet accrochage hier, hein, parce que voilà.
Ah non, pas un deuxième Massa chez Ferrari, non.
Non, tu vois, je l'ai comparé à Weber, pas à Massa. C'est
ça. Bah oui, non, mais deux blessés, c'est pas possible. Je veux bien que ce soit les Paralympiques, mais pas chez Ferrari, merde.
Allez, on va parler du premier, bien évidemment, c'est Button, 1299 points.
On va parler.
Oui. Il fait une course parfaite, comme on dit. Voilà, il part premier et voilà quoi.
Déjà, il survole les qualifs. Il survole la course.
On n'a pas l'impression qu'il force son talent.
C'est vrai. Alors,
c'est pas facile. C'est les courses les plus dures quand t'es devant. C'est ce qu'a vécu Vettel l'an dernier quand t'es devant et que le seul truc qui peut te faire perdre, c'est toi en faisant une connerie ou ton stand. Il a pas eu une course facile. Maintenant, c'est vrai que ça dégage une impression de facilité.
Il l'explique en conférence de presse, ça. Je sais que pour le spectateur, ça n'a pas l'air passionnant, mais moi, j'ai vécu une super course. J'avais l'impression de lire du Vettel 2011, quoi.
Oui.
Donc, je veux bien croire. Mais faut pas lui retirer. Il a fait une magnifique course. Pas d'erreur. Il a été. Son écurie n'a pas fait de boulettes au stand. Ils ont même fait des super arrêts canons. C'était son week-end.
Yeah. Au classement du SAV, Alonso reste premier avec 175 points. Il est suivi par Raikkonen 141, Vettel 137, Hamilton 125, Weber 111. Au classement des équipes, Red Bull 248, Lotus 243, McLaren 224, Ferrari 207. Dans l'autre classement, Alonso reste premier, 164 devant Vettel, 140. Donc là, d'un coup, c'est vrai qu'on se dit, on parlait de 40 points, il n'y en a plus que 24.
Ouais, il suffit.
Oui, mais vous pourriez en avoir encore moins.
Oui.
Il suffit, s'il limite la casse à Monza, oui. Voir s'il gagne. Moi, je le vois repartir d'Europe en tête du championnat encore. Hein. 24 points, faut qu'il fasse 0.
Il y a des chances, oui.
Il va minimum marquer un point. Si c'est pas Button ou Hamilton qui gagne, il sera toujours en tête au nombre de victoires.
Mm-hmm. Weber 132, Raikkonen 131, Hamilton 117. Lui, il perd beaucoup aussi au classement. Et Button 101. Chez les constructeurs...
C'est Hamilton, il perd d'autant plus qu'il voit revenir à moins de 15 points.
Oui, Button. Enfin, à 16 points.
Button. Donc, là, pour le coup, le discours qui était celui de la semaine dernière, peut-être que Button va aider, là, il vaut plus.
Ah
On n'est plus du tout sur le même écart, quoi.
Chez les constructeurs, Red Bull 272, McLaren 218, Lotus 207 et Ferrari 199.
Ouais, Ferrari vise pas le titre constructeur, ça c'est clair.
Non.
En même temps,
il faudrait qu'il se penche sur la question quand même, un de ces quatre.
Il y a plus de 50 points d'avance hein, pour Red Bull.
Ouais.
Par contre, c'est Lotus qui se penche sur le championnat des constructeurs avec Romain Grosjean. Promis, Romain, après j'arrête. C'est la dernière. Allez. Sérieux, c'est la dernière.
On va passer au fait marquant. et nous vous avions demandé, comme d'habitude, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Hongrie. Vous avez été 117 à voter, merci. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Est arrivé troisième avec 17 votes. Schumacher qui a besoin de lunettes, 14,53%.
Oh, ça c'est toi ça.
Ça c'est moi.
Ah merde. Oh, putain, putain.
29 votes. Hamilton revient dans la course au titre, 24,79%.
Ah, je sais plus qui c'est.
Et premier, 71 votes. Lotus à deux doigts de la victoire, 60,68%.
Ah, je sais plus.
Je me rappelle plus pour qui j'avais voté.
Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Mais...
Ah, moi.
C'est peut-être moi à deux doigts de la victoire.
C'est plus
moi.
Ton style, ouais.
Ouais.
Donc c'est
à moi. Gagné. Alors vas-y, réfléchis bien, je te dis.
Attends.
Je suis super content d'avoir le dernier choix en fait. J'ai juste à trouver un truc encore plus pourri que ce que va pouvoir trouver Elder.
J'ai bien une phrase, mais.
Strike.
Non, parce que je crois que je l'ai déjà fait ça avec Luzi ou un truc l'an dernier.
Non, mais toi, tu veux strike.
Non, j'ai envie de mettre Grosjean 2 points. Y a-t-il un pilote dans l'avion?
N'empêche, ça, on pourrait dire à Ben, c'était une super idée de chronique pour sa chronique d'aujourd'hui. C'était franchement très bien.
Ouais, je vais mettre ça, voilà. De toute façon, tout le monde aura compris, alors c'est bon.
Oui.
Et je mets un point d'interrogation, forcément, parce que je sais que tu n'aimes pas quand je mets des points à la fin des... Mais là, comme c'est le titre du film, hein.
Oui, non, mais voilà, non, mais là, oui, c'est obligé.
Donc c'était à Elder.
Tu dois trouver un fait marquant de la course, c'est ça?
Oui.
Ouais, vas-y, démerde-toi, mon grand. Ouais.
Tu peux faire comme moi, essayer d'enrober dans un truc.
Non, mais attends, je pense que j'en ai une belle.
Avec un titre de film dedans, c'est nickel.
Ah non, là, tu m'en demandes beaucoup trop. Ah, si, on... Hey. Non, ça irait pas. Parce que j'allais dire Maldonado, les 7 salopards. Les 7 mercenaires, pardon, c'est les 12 salopards. Non, mais c'était Maldonado, le Lucky Luke au feu rouge.
Bah, Lucky Luke, c'est bon.
Ah oui. Je précise au feu rouge ou pas?
Le Lucky Luke de la F1, oui.
Les gens vont rien comprendre à ce sondage.
Donc je mets le Lucky Luke de la F1.
Ouais. Allez, je me jette à l'eau.
Et toi, Dino?
Ah, maintenant, faut que je trouve un truc avec une référence culturelle dedans. Les 12 dépassements de Vettel. Un conseil Shinji, mets-les tous entre guillemets quand même. Que les gens se disent, bon bah là c'est entre guillemets, c'est vraiment spécial, ils ont fumé un truc pendant l'émission.
D'accord. Tu veux que je mette tout entre guillemets?
Oui, voilà, chacun tu mets entre guillemets, oui. Comme ça les gens verront que c'est pas sérieux. Enfin, que c'est sérieux, mais que c'est pas sérieux en fait.
Oui.
Et ils vont se dire, on va peut-être attendre en fait d'écouter l'émission pour pouvoir voter, parce que là quand même, le Lucky Luke de la F1, les 12 dépassements de Vettel.
Alors que y a-t-il un pilote dans l'avion, ça pas parlé à tout le monde.
Ah, oui, ça c'est, de toute façon, mais ça c'est gagné. Enfin, de toute façon, t'as mis Grosjean dedans, tu aurais pu mettre Grosjean, carotte, navet, banane, ça marchait quoi. Tu mets Grosjean avec une succession de chiffres, de lettres, ou ce que tu veux, bah,
Donc, on va vous proposer. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2012? Entre Grosjean, y a-t-il un pilote dans l'avion? Les 12 dépassements de Vettel, ou bien Maldonado, le Lucky Luke de la F1? Donc, on vous rappelle que pour voter, il faut vous rendre sur le site fan-f1.com, sur l'article dédié au SAV de la F1. Et donc normalement, donc c'est sur l'émission de Belgique, il y a le sondage juste en dessous. Et normalement, vous avez même déjà voté, parce que de toute façon, vous votez avant d'écouter la.
Non, là, je pense que vous avez écouté l'émission avant.
Oui, monsieur. Nous, on vote avant d'écouter l'émission, parce que c'est comme ça, c'est tout. Moi, je fais partie de ces gens-là qui votent avant. Et quand j'ai vu les 150 choix l'autre fois, je me suis dit, ils sont fous.
Il n'y en avait que 10. Allez, on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors Dino, rappelle-nous quelle était la question du concours cette semaine.
C'était une question de Adelin. Le circuit de Spa-Francorchamps ne porte pas bien son nom. Mais pour être tout à fait logique, quel devrait être son nom aujourd'hui? Et la réponse est, je dis.
Alors, si les informations que j'ai vues seraient correctes, ça serait Stavlo Malmedy.
C'est oui, ça. Voilà.
Parce que d'une part, il est pas sur Spa en lui-même. Et en fait, alors si j'ai bien compris, en Belgique, il y a eu une réorganisation des communes aussi, en plus, qui fait que notamment le
Francfort-Champs
est sur la commune de Stavlo.
Non, j'ai dit c'est chiant. Non, arrête, c'est chiant. Arrête. Sinon, je t'envoie Grosjean.
Ah non! Vas-y, hein, pétez les réponses.
Donc, nous avons eu 3 réponses. Et tu vas pouvoir bénéficier de l'aide de Elder, qui n'a pas participé, le méchant. C'est pas bien, Elder.
Ouais, ouais, mais si, je te l'avais envoyé sur Twitter, la réponse.
Donc, nous avons, donc, comme d'habitude, hein, je pose les questions. Donc, je rappelle que nous avions donné comme thème donc le Grand Prix d'Italie, enfin l'Italie en général, ou l'hymne italien.
Ah bon? Ah oui, peut-être.
Oui.
Ça date, alors.
C'est spécial. Et donc, voici les questions, Shinji et Elder, je vous laisserai choisir. Avant 2012, quel était le dernier Grand Prix? Autant vous dire, même si vous n'avez pas donné la réponse exacte que celle que vous a donné Shinji, on s'en fout. Hein. On a donné un petit peu toutes les bonnes réponses, on n'avait pas vérifié non plus le cadastre de Spa. Voilà. Donc, même si vous avez dit Malmedy, tant qu'il y avait Malmedy, Stavlo, Francorchamps dedans, nous, c'était bon. Donc, première question. Avant 2012, quel était le dernier Grand Prix d'Italie où aucun pilote italien n'était au départ? Combien de Grands Prix d'Italie ont été disputés depuis que l'Italie s'est officiellement dotée d'un hymne national? Et enfin, combien de circuits ont été utilisés pour le Grand Prix d'Italie de Formule 1 depuis la création du championnat?
D'accord.
Donc, gentlemen, start your answerings.
La deuxième...
La deuxième.
Bien piégeante. Hein. Depuis l'hymne, quoi. Tu vois, c'est bien précisé. Hein. Ça veut dire qu'il y avait eu des... il y a sûrement eu des grands prix avant qu'ils aient un hymne.
C'est depuis l'écriture de l'hymne, depuis que c'est considéré comme.
Combien de grands prix d'Italie ont été disputés depuis que l'Italie s'est officiellement dotée d'un hymne national? Donc c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'hymne national. Et
notez bien, c'est depuis que officiellement il y a un hymne national en Italie. C'est important.
Donc on part pour celle-là?
Ouais.
Et on va faire un heureux, il va être content, ça va faire 2 émissions où on le cite, puisqu'il a fait l'objet d'une question dans le dernier quiz.
Il était content.
Je peux deviner.
Il était content. Vas-y, devine.
C'est Globen.
Bravo, tu as marqué 5 points pour les garçons.
Yes! Merci. Donc ils sont à 16, 22, c'est ça?
Et sur Twitter, j'ai dit, Globen, ne t'inquiète pas, ne perds pas espoir, un jour tu gagneras, et en plus, le jour où tu gagneras, ça nous permettra de faire une autre question sur l'histoire du SAV.
Donc voilà, on va remercier Steve qui nous avait posé la question sur le Grand Prix d'Italie, le dernier Grand Prix d'Italie où il n'y avait pas eu de pilote italien, c'était en 1969. Voilà, donc ça donne un peu une idée. Et on va remercier aussi Germain qui avait posé la question sur le nombre de circuits qui avaient été utilisés pour le Grand Prix d'Italie de Formule 1, c'était 2. Monza et Imola une fois en 1981 sur le circuit d'Ino et Enzo Ferrari. Donc pour répondre à la question suivante, vous avez une semaine.
Oui, même, ouais, un peu moins même.
Voilà. Combien de Grands Prix d'Italie ont été disputés depuis que l'Italie s'est dotée officiellement d'un hymne national? Pour répondre, c'est concours@savf1.fr. Vous nous posez une question sur Singapour. Est-ce que tu veux mettre un thème à Shinji ou pas?
Le chewing-gum.
Il faut savoir qu'il est interdit de manger du chewing-gum à Singapour. Il y a une loi spéciale contre le chewing-gum. Ça déjà, il y a une question en moins. Donc voilà, c'était le concours top à position.
Oui. Et donc justement, on va évoquer ce Grand Prix qui arrive déjà là ce week-end. Hein,
ouais.
Le bien nommé Temple de la Vitesse.
Oui, mais tu sais, Shinji, sincèrement, l'année dernière j'y suis allé, j'ai eu tellement de belles sensations que cette année, j'ai pas le cœur à regarder le Grand Prix. Ça va me faire déprimer et tout.
En plus, tu sais, il est pas loin.
Oui, voilà. Voilà, mais en même temps, faudrait que je m'occupe l'esprit, faudrait que je trouve quelque chose à faire pendant le Grand Prix pour pas le regarder. Parce que je suis fan de Formule 1, ça tout le monde le sait, personne n'en doutera. Donc je risque d'être tenté quand même de le regarder. Faut que je trouve des choses à faire pendant ce Grand Prix-là. Il m'en faudrait au moins 7.
Eh bien, écoute, je vais te proposer, en fait, moi je les ai fait pour la moitié en me basant si tu étais à Monza et que tu n'aimais pas la Formule 1.
Ah ouais, oh. C'est encore pire, tu vois.
Eh bien,
tu es pervers.
Pas pour tous, hein, parce qu'à un moment donné, c'était plus simple. Donc, j'ai commencé le premier. Je te proposerai de prendre l'avion et de rentrer en France, parce que t'as rien à foutre à Monza, en fait. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai que le mec qui va à Monza en dehors du Grand Prix.
C'est à peu près, ouais, il doit y avoir 2 heures en avion, j'imagine. Donc c'est...
Oui, ça va, c'est pas très loin.
Voilà.
Et les hôtesses sont très sympas. Vous prenez à l'Italia, c'est super. Ils sont super sympas. Ils font les consignes n'importe comment, mais ils sont très sympas.
Ensuite...
J'espérais juste que ce soit pas Grosjean qui pilote l'avion. Vous dites, si Grosjean pilote l'avion, elle me donne pas correctement les consignes, on va tous mourir. Ouais,
si te donne les consignes, comme Lotus a donné, je reviens sur le Papercraft, leur notice, même Ikea, ils font mieux, hein, si je peux me permettre de les citer. C'est, moi, je m'arrache les cheveux sur celles que je fais. Hein. C'est des fois, je regarde le truc, je me dis, mais comment ils ont fait cette forme?
En même temps, c'est une F1, c'est pas une cocotte en papier.
Ah bah écoute, à l'heure actuelle, elle ressemble plus à la F1 de Grosjean hier que à celle de Kimi. Hein. Donc j'ai encore du boulot dessus, quoi. Donc ensuite, je te proposerais bien d'aller visiter le Museo del Duomo Filippo Serpero, qui est une ancienne église apparemment, qui se visite en à peu près une heure et demie. Donc ça t'occupera pendant le Grand Prix, t'entendras pas le bruit des Formule 1, tu seras pas gêné. Hein.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce musée?
Écoute, c'est architectural, donc tu vas regarder
la pierre. C'est pour ça que tu m'as chassé un crayon.
Donc voilà, tu regardes des pierres, c'est formidable. Hein. Il y en a qui aiment ça. Hein. Ensuite, écoute, t'es à 10 km de Milan, hein, tu peux aller te mater un match de foot. Hein.
À 3 heures de route de Milan, faut le dire aussi.
Ah bon?
Ah oui, non, sincèrement, un conseil, si vous allez à Monza, prenez votre temps. D'accord. Partez le matin à 5 heures. N'oubliez pas, les Italiens roulent sur deux fils.
Ah oui, parce que j'allais dire, mais eux, ils vont en direction de Monza. Si toi, tu vas en direction de Milan, t'es pépère.
Ah non, même pas.
D'accord, c'est formidable l'Italie alors.
Pardon, en tout cas, l'an dernier, ils faisaient des travaux pour améliorer la circulation et c'était pire, comme souvent quand il y a des travaux. Ça sera peut-être résolu cette année, mais voilà.
Peut-être. Ensuite, je te proposerais bien de t'asseoir tranquillement sur ton canapé pour regarder la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, qui devrait avoir lieu, si je me suis pas trompé, le dimanche soir.
Oui.
Voilà.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas pendant le Grand Prix.
Eh oui, c'est pas faux, j'y ai pensé.
Sauf si, en fait, je suis allé au musée de la Serpillière, que je suis revenu en avion, que je l'ai enregistré, tu vois, sur ma box, et que j'arrive le soir, au moment où je l'enregistre, ah non, il y a la cérémonie. Ça marche, ça colle.
C'est un bel enchaînement pour la proposition suivante. Si tu es à Paris, t'as une heure et demie pour traverser Paris, hein, en voiture.
Putain, faut que je rentre chez moi. Alors, attends, faut que je rentre chez moi. Je viens déjà me taper l'avion, faut que je rentre chez moi pour que je reprenne la bagnole pour aller à Paris.
Parce que de l'aéroport à chez toi, si tu dois traverser tout Paris, une heure et demie, c'est juste. Hein.
Oui.
Même un dimanche après-midi ou un dimanche soir. Ensuite, tu peux aller bronzer dans un parc, mais il me semble que ça a déjà été proposé. Hein.
Oui, mais en même temps, c'est-à-dire que c'était proposé à une époque où il faisait beau. Là, il fait plus beau.
Oui.
Tu pourrais aller bronzer, mais j'aurais l'air con, donc ça peut compter.
Tu vas être comme ce fameux fan belge qui était sur son petit truc là, du côté des, tu sais, là où c'est placement libre, oui, qui était sous la pluie.
Oui. Oui. Ouais, il a pris un coup de nuage.
Donc, et sinon, en septième proposition, le temps d'un Grand Prix, hein, si tu n'aimes pas le Grand Prix ou que tu veux pas le voir, tu peux essayer de retrouver la trace des tweets portés disparus de Lewis Hamilton.
Ça, c'est dur.
Mais en tout cas, c'était cette bonne raison.
Oui.
Voilà, ouais.
Alors, messieurs, sur cette prochaine course à Monza, c'est déjà dimanche, même si c'est très différent de Spa, qui voyez-vous pour ce Grand Prix ?
D'Ambrosio.
Non mais vous rêvez quoi.
Ah, ça me ferait tellement plaisir que ce soit le troisième pilote qui remporte la première victoire. Je trouverais ça génial.
Non, Hamilton.
Oh, Alonso.
S'il a le nouvel aileron.
Oui, mais il aura.
C'est un mystère. Aura-t-il le nouvel aileron? La réponse à Monza.
C'est Button qui tweetera les télémétries. Hein.
Allez, on arrive à la fin de cette émission. On rappelle que si vous souhaitez poser une question au répondeur, prochaine émission du répondeur, ça sera donc dans 2 semaines, puisqu'il y a Monza. Donc pour poser une question, c'est sur l'adresse mail répondeur@savf1.fr. On vous rappelle qu'on est sur iTunes. Pensez aux 5 étoiles, ça fait plaisir. Sur
le SAV de la F1, c'est
le rythme des podcasts.
Waouh, bravo.
On est aussi sur Podcast France. Avec... Et là encore, il y a un vote, donc votez pour nous. Voilà.
Oui, mettez 5 étoiles, c'est bien.
Voilà. Shinji président.
Elder, merci de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Oui, ça va, tu vois, t'étais stressé sur Twitter, tu vois, c'est bien passé.
Oui, c'est mis la pression, Elder.
C'est mis la pression toute seule.
J'ai pas regardé, du coup, Twitter de toute la soirée. Hein. Mais oui, j'ai aperçu, je crois que ma tweet list est un peu spoilée par Steph, Fabien et Gus Gus.
Oui.
Je crois qu'ils m'ont un peu pourri durant la soirée. Donc voilà, je vais avoir de la lecture en rentrant.
Alors justement, en parlant de lecture, on va en profiter parce qu'il le fera pas parce qu'il est trop modeste et
trop timide.
Voilà.
Oui, site, oui.
Il a un blog où qui s'appelle Et si la F1, qui, voilà, il écrit des histoires justement qui se déroulent dans un univers
voilà,
parallèle.
Il y a ce qu'on appelle des uchronies, c'est-à-dire voilà, si un élément avait changé. Qu'est-ce
que j'aurais dit des trucs simples et Shinji, voilà.
Mais oui, mais
c'est bien, c'est bien. C'est des uchronies.
Voilà. Donc rappelle-nous l'adresse.
Alors c'est essilaf1.wordpress.com.
Ça va.
Voilà.
Allez.
Donc voilà, ils trouveront tout leur bonheur. Vous pouvez lire une de mes histoires si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas regarder un Grand Prix.
Allez, on vous souhaite à tous une bonne semaine et une bonne course dimanche prochain, sans Romain Grosjean. Et comme d'habitude, on se quitte sur ces quelques mots de poésie.
Je voulais donc en profiter pour rendre un hommage à un monsieur qui pour moi est un grand monsieur du XXe siècle et enfin est un des grands monsieur du XXe siècle et un symbole très fort et voilà, c'était Neil Armstrong qui en atterrissant sur le circuit de Spa-Francorchamps aurait pu dire ce week-end, c'est une petite erreur pour Grosjean. Une frayeur de géant pour Alonso.